Bonjour, ici Jean-François Denis pour TOVOX Actualité. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes sur le site de l'Université d'Ottawa parce que nous avons en entrevue un chercheur, ancien professeur de cette université qui viendra nous entretenir sur des sujets chauds d'actualité. Pour en savoir plus, restez des nôtres, je vous présente cette entrevue après ce qui suit. On entend plein de choses par rapport à la pandémie qui bat son plein actuellement. Tantôt des informations qui peuvent être controversées par rapport à d'autres sources d'informations. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir un chercheur, un ancien chercheur et professeur titulaire de l'Université d'Ottawa qui a pratiqué plusieurs domaines de la science, qui était financé par une agence nationale, qui a dirigé un laboratoire reconnu internationalement, qui a publié plus de 100 articles dans des revues scientifiques importantes, publié également plusieurs essais de commentaires sociaux. Aujourd'hui, il est également chercheur, toujours chercheur, à l'Association des libertés civiles de l'Ontario. Monsieur Denis Rancourt, bonjour.
Bonjour Jean-François.
C'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir parler de cette pandémie-là. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble aujourd'hui trois axes. Pandémie, j'aimerais avoir votre position par rapport à la pandémie. Deux mots qui font partie maintenant de notre langage à travers le Canada, je dirais peut-être même à travers le monde entier, distanciation sociale et confinement. Et j'aimerais qu'en conclusion, qu'on puisse regarder tout l'aspect au niveau du masque. Quelle est votre position par rapport à cette pandémie-là?
Ben, ça va vous sembler un peu radical, là, ce que je vais vous dire, là, mais il n'y a pas eu de pandémie. Parce que la façon de regarder les données les plus robustes, les meilleures données, c'est de regarder la mortalité toutes causes confondues. Quand on regarde la mortalité toutes causes confondues par semaine, ça donne un graphique qui peut s'étaler sur plusieurs décennies, qui montre toujours un maximum, une espèce de bosse surélevée l'hiver. Il y a toujours une bosse l'hiver de la mortalité toutes causes confondues. Après ça, il y a un creux l'été, une bosse l'hiver, un creux l'été. C'est un patron extrêmement régulier. Et la raison, l'existence de ce patron-là, c'est dû aux infections de maladies respiratoires virales. Parce que les virus se propagent l'hiver. Pourquoi est-ce qu'ils se propagent l'hiver? Parce que le mode de transmission, c'est à travers des très fines particules aérosols en suspension dans l'air. De telles particules aérosols sont stables dans l'air et font partie du fluide de l'air si l'humidité absolue est basse, l'hiver, donc l'hiver. Dès que l'humidité absolue augmente l'été, ces particules chutent et elles s'agglomèrent, il y a de l'eau qui se condense sur elles, puis elles sont évacuées par la gravitation. Et ces maladies-là ne se transmettent pas l'été pour cette raison-là. Pareillement, ces mêmes maladies-là ne se transmettent pas dans les pays équatoriaux. Il faut être à une certaine mi-latitude, là, soit dans le nord ou dans l'hémisphère sud, et c'est toujours l'hiver. Donc, c'est inversé dans l'hémisphère sud. Et donc, cette transmissivité-là, elle est super bien comprise et elle a été expliquée grâce à ce phénomène de l'humidité absolue depuis une décennie. Ça fait 10 ans. Depuis des études importantes, là, un breakthrough scientifique, là, 2010, Shaman et Al ont démontré ça de façon absolument convaincante. Et donc, on connaît le mode de transmission de toutes les maladies virales respiratoires. À travers ces particules-là, on comprend donc pourquoi c'est saisonnier et on voit, une année après l'autre, à peu près la même mortalité, on appelle ça la charge hivernale de la mortalité, toutes causes confondues, elle est à peu près la même à tous les ans, ça fait des décennies que c'est comme ça.
Et comment on peut justifier alors la mise en quarantaine et tout ce qui était arrivé à partir du mois de mars, puis on a vu vraiment comme une accentuation par rapport au taux de mortalité? Alors qu'on était probablement en fin de saison.
Ce n'est pas justifié. C'était une pandémie de propagande, une pandémie de... C'était de l'ingénierie sociale, c'est de la propagande, c'est fabriqué de toutes pièces, dans le sens que, oui, il y a des infections virales respiratoires, comme il y a à tous les ans, à tous les hivers. Et il y a toujours une panoplie de virus qui sont impliqués là-dedans, parce qu'il n'y a jamais juste un virus qui est impliqué. Il peut y avoir, même les virus pour lesquels on a beaucoup développé une immunité naturelle, ils coexistent dans la population quand même, puis il y a des individus qui peuvent être infectés par ces virus-là. Quand on analyse l'infection d'une personne, on trouve plus qu'un virus actif qui fait partie de l'infection. Alors donc, il y a toujours cette panoplie de virus-là, mais ce qui est important de comprendre, c'est que, à savoir si la personne est à risque de mourir, comment est-ce qu'on détermine ça? C'est question de façon prédominante de l'état de santé, d'immunité de cette personne-là. Parce que ces virus-là sont toujours à peu près pareils.
Et quand vous parlez d'à peu près pareil, ça m'amène une question à brûle-pourpoint comme ça. Il semble que lorsque ce virus a débuté en Chine, il semblait nettement plus virulent que ce qu'on a connu ici au Québec ou au Canada.
Non, je ne crois pas qu'il était plus virulent. Je veux dire, quand on observe un virus qui frappe un hôpital ou qui frappe une population vulnérable, immunovulnérable, quand on observe ça, c'est sûr qu'il va y avoir un peu plus d'entrée à l'hôpital localement où cette population-là est infectée. Et s'il y a une équipe de virologues et de médecins ou de médecins-chercheurs qui prennent la peine d'analyser, puis qu'ils arrivent à trouver une évidence comme quoi il y a une variété de virus qui est originale ou qui est nouvelle, il y en a toujours, ils vont dire qu'il y a une nouvelle maladie. Dès qu'on dit nouveau virus, nouvelle maladie, ça excite tout le monde, les chercheurs, tout le monde se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette maladie-là? Mais en fait, en réalité, d'un virus à l'autre, il y a toujours à peu près les mêmes satellites de symptômes pour les maladies respiratoires virales, là, je parle. Il y a toujours à peu près, en gros, les particules aérosols qui transmettent le virus, que j'expliquais tantôt, ils entrent par les poumons. Ça, c'est le mode d'entrée. Il y a l'infection, donc, au niveau des poumons, puis ça peut monter. Donc, c'est toujours à peu près les mêmes choses qui se passent, et les taux de mortalité sont toujours à peu près les mêmes, dans le sens que cette charge hivernale est toujours à peu près la même. Il faut comprendre qu'il y a des conditions de comorbidité. Il y a des personnes qui ont des conditions cardiaques, il y a toutes sortes de personnes fragiles dans les hôpitaux, et quand, en plus, ils sont infectés par un virus comme celui-là, un virus comme ça, quand ça rentre dans les poumons, ça exige une réponse immunitaire immédiate et très exigeante. Au niveau de l'énergie métabolique, là, tout le système se met en branle, et même notre système va fermer des fonctions qui sont moins essentielles, parce que ça devient une question de survie. Exact. Alors, l'exigence métabolique est très grande quand on se fait infecter comme ça, et si on a besoin d'une énergie métabolique pour combattre d'autres conditions, il y a donc une compétition, et c'est là que les gens peuvent mourir.
Est-ce que ce sont de vrais décès COVID?
C'est très difficile d'attribuer les causes de décès dans des conditions comme celle-là. Dès qu'on a des conditions d'épidémie virale, d'une maladie comme celle-là, comme je viens d'expliquer, dès qu'il y a des causes de comorbidité, donc de vraiment attribuer la cause du décès dans des conditions où il y a toujours nécessairement plusieurs choses qui se passent, c'est presque impossible. Mm-hmm. C'est pour ça qu'en tant que chercheur, on n'essaye même pas de faire ça. Et en plus, il est reconnu, les chercheurs reconnaissent que d'essayer d'attribuer la cause de mortalité dans des conditions comme ça, c'est très biaisé. C'est biaisé par les médias, c'est biaisé par les collègues, c'est biaisé par les attentes. C'est extrêmement un processus biaisé, même si on a des tests qui eux-mêmes peuvent être très imprécis, surtout quand ils sont développés à l'épouvante, parce que soi-disant il y a une pandémie, etc. Donc, plutôt que d'essayer de faire la part des choses dans tout ça, là, c'est pour ça qu'on regarde la mortalité toutes causes confondues. Et c'est là qu'on voit, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de catastrophe. Quand on regarde l'air sous cette courbe-là de mortalité, toutes causes confondues par semaine, ça donne la charge de mortalité hivernale. Elle n'est pas différente, elle n'est pas statistiquement différente que pour les dernières 10, 20, 30 années. OK? Ouais. Là, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu comme une catastrophe dans le genre. On peut voir des mortalités augmenter en pic des fois, par exemple, quand il y a un tremblement de terre dans une région qui écrase des gens dans les buildings, qui cause de la maladie, etc. Là, on peut voir des pics comme ça. Mais il n'y a pas eu de catastrophe de ce type-là. Mmh. Ce n'est pas un pathogène tellement nouveau et virulent qu'on peut détecter une augmentation totale dans cette charge hivernale de mortalité.
Je comprends. Vous avez fait une déclaration au choc dans un de vos ouvrages, puis je vais la citer parce que ça m'a comme interpellé. Ces caractéristiques du pic COVID, ainsi qu'un examen de l'histoire épidémiologique et des connaissances pertinentes sur les maladies respiratoires virales, amènent à postuler que le pic COVID résulte d'un homicide de masse accéléré de personnes immunovulnérables et de personnes rendues plus immunovulnérables par des actions gouvernementales et institutionnelles plutôt que d'être la signature épidémiologique d'un nouveau virus, quel que soit le degré de nouveauté du virus du point de vue de la spéciation virale.
Oui.
Selon vous, toute cette histoire de COVID est la signature probable d'un homicide de masse?
Ben écoutez, là, il faut que j'explique un peu cet énoncé-là puis le contexte de cet énoncé-là.
Absolument.
C'est parce que il y a deux choses. Premièrement, quand on prend la charge hivernale totale, elle n'a pas augmenté comparée aux décennies passées. Par contre, quand on regarde les données, quand on regarde la courbe de mortalité toutes causes confondues en fonction du temps, disons par semaine,
ouais,
là on s'aperçoit qu'il y aurait un espèce de maximum qui a une apparence normale et habituelle, suivi d'un pic très fin, très très à pic, et qui ne dure pas longtemps, qui ne représente pas énormément de morts à l'échelle d'un pays, mais qui est quand même un pic distinct, qui se voit et qui se mesure. Et donc, il faut se questionner qu'est-ce que c'est que ce pic-là? Parce qu'un pic comme ça n'a jamais été vu dans le passé. Quand on regarde les charges hivernales puis ces courbes épidémiologiques, on ne voit jamais un pic si fin, qui est si abrupt et qui a lieu si tard dans la saison hivernale. OK? Donc, ça nous met la puce à l'oreille, si on veut. On se dit, OK, qu'est-ce que c'est que ce pic-là? Et après ça, quand on le regarde, ce pic, il est fin, là, il se termine dans 3, 4, 5 semaines. Ça, il y a une montée très subite des morts, toutes causes confondues, et ensuite une chute. Et il est initié exactement en même temps dans tous les pays où il a lieu, c'est-à-dire à la date où l'OMS a déclaré la pandémie et a recommandé formellement à tous les pays de préparer leurs hôpitaux pour une entrée très grande de patients. Et donc, il y a eu des réponses gouvernementales. Pas toutes les juridictions ont fait la même chose, mais les juridictions qui ont suivi ces recommandations-là et qui l'ont pratiqué d'une certaine façon ont eu ce pic qui a eu lieu exactement au même moment, juste au début du pic, là, et qu'il est monté en flèche, là, à la date de cette déclaration-là et de cette demande-là. Bon, mais il n'y a pas un virus dans l'histoire de la biologie qui peut agir simultanément à travers des continents et se mettre à causer des morts instantanément, en même temps, partout. Donc, ce n'est pas un pic naturel.
Ce que vous voulez dire, si je comprends bien, ça veut dire que, qu'on soit en Chine, en Afrique, aux États-Unis, en Australie ou bien au Canada, il y a eu un pic simultané à travers tous ces continents-là, tous ces pays-là.
Partout où il y a eu cette montée qu'on peut voir dans les données, c'est arrivé en même temps. En Chine, l'histoire est un peu plus compliquée. Là.
Je comprends.
Puis, il y a aussi de la politique qui est impliquée, etc. Mais si on regarde beaucoup de juridictions en Europe, et aux États-Unis, au Canada, au Québec,
oui,
en France, en Angleterre, ce pic-là a lieu de la même façon, en même temps, de façon synchronome. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce même pic-là, anormal, qui serait dû à l'intervention des gouvernements, d'après moi, n'a pas eu lieu dans plusieurs États aux États-Unis, et des grands États. Okay? Donc, d'un État à l'autre, il peut avoir lieu, puis être très prononcé, comme à New York, par exemple,
ouais,
et dans un autre grand État comme le Texas, la Californie, il n'y a à peu près rien. Il n'y en a pas de pic comme ça. Il
n'y
a pas ce pic anormal.
Est-ce que ce serait dépendamment de l'allégeance politique, par exemple?
Ben, il y a aussi cette relation-là qu'il y a eu des pics très prononcés, surtout dans des États démocrates. OK? Mais est-ce que... c'est pas parce que c'est un État démocrate qu'il va y avoir ça, mais c'est plutôt à cause des politiques gouvernementales.
Ouais.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que au Québec, et partout où il y a eu cette accélération de la mortalité, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plusieurs choses qui risquaient beaucoup d'augmenter rapidement la mortalité. On a vidé les lits, les places de soins intensifs dans les hôpitaux.
Ouais.
On a mis ces gens-là dans d'autres institutions où ils avaient moins de soins, et on a fait ça sans trop vérifier s'ils n'étaient pas déjà infectés par je ne sais pas quoi. Okay? Il n'y a pas eu un contrôle très, 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 très bon. Et donc, on les a envoyés dans, dans d'autres institutions. Dans ces institutions-là, on a décidé de pratiquer l'isolation. On s'est dit, c'est des personnes vulnérables, donc fini les visites. On a fermé les portes, il y a eu moins de personnel pour s'occuper de ces gens-là et il n'y avait plus de visites familiales. Mmh. Alors, les quelques personnes qui étaient infectées, il va toujours en avoir, les aérosols se répandent dans l'air et sont en suspension dans l'air longtemps. Il y a moins d'air qui est échangé avec l'extérieur parce que les portes s'ouvrent moins souvent, il y a oui. moins de contacts. Et en plus, ces mêmes personnes-là qui sont dans un milieu où il y a cette haute densité de particules aérosols qui est porteuse de ces virus, en même temps, on les stresse énormément psychologiquement parce ouais. qu'il n'y a plus de visites, il n'y a plus de contacts, il n'y a plus de personnel pour s'occuper d'eux. Et donc, on crée exactement les conditions pour les tuer. C'est aussi simple que ça. Le stress psychologique, c'est un des plus grands facteurs qui peut affecter le système immunitaire et qui affecte et qui donne carrément plein de maladies. Et ça, les recherches scientifiques sont très claires là-dessus. Là. Mm. Ces maladies-là, ce stress-là qui se transmet dans un stress immunitaire, plus l'infection, qu'elle soit COVID ou que ça soit n'importe tous les autres virus qui, de maladies respiratoires qui sont courantes et qui peuvent être propagés l'hiver à cause de l'air sec, va faire en sorte qu'il va y avoir eu une accélération de la mortalité.
Quand on est un chercheur émérite reconnu au Canada certainement et à l'international, vous avez fait plusieurs conférences dans votre carrière vous-même, quand on est un chercheur puis on réalise qu'on a la société ou le monde entier a été dupé par une fausse pandémie, c'est quoi le premier sentiment qui nous revient, qui monte dans l'esprit par rapport à...
Écoutez, je vais peut-être pas donner la réponse que vous attendez à recevoir.
Là. Ah, je m'attends pas à une réponse, je pose des questions, c'est tout.
Non, je sais, mais je veux dire, c'est peut-être pas une réponse que la plupart des gens penseraient entendre. À chaque fois que je m'adonne à regarder la télé et que j'entends les propos des politiciens et des soi-disant experts, je suis étonné par... l'abrutissement qu'on subit. Et donc, ça ne me surprend plus. Mm-hmm. Où sont les plus grandes erreurs? Où sont les choses qui nous font le plus de tort? Est-ce que c'est le COVID? Est-ce que c'est de répandre du glyphosate sur toute la nourriture qu'on mange, partout, parce que les compagnies qui contrôlent les OGM les ont développées pour qu'on puisse utiliser beaucoup de glyphosate pour que ça coûte moins cher et créer une dépendance là-dessus, puis ensuite on est tous empoisonnés au glyphosate. Est-ce que ça, c'est un plus gros crime? Parce que c'est connu que ça cause plein de différentes sortes de maladies. Il y a toute une panoplie de maladies qui sont causées par ça. Est-ce que c'est un plus gros crime de traiter les cancers comme on les traite, de faire souffrir les gens de façon absolument effrayante, sans jamais qu'il y ait de tests de comparaison, sans jamais qu'on puisse démontrer que ce traitement est meilleur qu'aucun traitement, parce que ça, c'est maintenant considéré pas éthique de faire ces tests-là. Je veux dire, on n'a même plus le droit de poser la question. Mmh. Est-ce que ça, c'est plus endommageant pour la société, etc., etc. À un moment donné, on n'est plus tellement épaté. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à le signaler, appuyer les gens qui se prononcent contre ça, les appuyer avec des informations, les appuyer avec des encouragements, et travailler dans mon association, qui est cette association des droits civils.
C'est quoi du désir de Justin Trudeau de légiférer contre tous ceux qui seraient acquérant un discours différent de l'OMS par rapport à la COVID-19?
C'est absolument épouvantable. Je veux dire, de penser qu'on est arrivé là, on perd complètement la liberté d'expression. On perd, et toujours sur des prétextes de nous protéger.
Ouais.
Toujours ce prétexte que ça peut être endommageant. Moi-même, je me suis fait, en anglais on dit deplatformed, en français c'est censuré si on veut, d'un site scientifique très connu qui est le ResearchGate. Mon article sur les masques, vous voulez parler des masques tantôt, avait été lu 400 000 fois par des chercheurs sur ResearchGate.
Wow.
Et ils l'ont, sans explication vraiment, ils l'ont enlevé. Et ils m'ont envoyé un petit message en disant, on a enlevé votre article parce qu'on estime qu'il n'est pas scientifique et que ça traite des sujets controversés. Alors, j'ai écrit directement au dirigeant de la compagnie, puis j'ai dit, écoutez, c'est une revue de la littérature scientifique dans les journaux scientifiques. Ça ne peut pas être pas scientifique, ce n'est que ça. Et en plus, est-ce que vous êtes en train de me dire que des écrits scientifiques ne peuvent pas traiter des sujets controversés? Alors là, les deux chefs d'entreprise de cette compagnie m'ont répondu et ils ont dit, non, finalement, notre vraie raison, si on veut, c'est que votre article était trop lu et on estime que ça pourrait être un danger pour la santé publique de montrer des données ou d'avancer des données qui suggèrent qu'il n'y a pas d'avantage à porter un masque. Et donc, après ça, les médias, heureusement, en ont parlé de cette censure et l'article a été publié dans les médias, dans une média de masse aux États-Unis et a pu être vu de cette façon-là. Et j'ai trouvé un autre site scientifique qui était où je pouvais publier le même article, donc je l'ai mis là, etc. Mais ça montre à quel point là l'establishment tient beaucoup au masque.
Pour quelle raison, selon vous?
Est-ce que c'est justifié? Non, absolument pas. Mes études de la littérature scientifique démontrent de façon non ambiguë qu'il n'y a aucun avantage en termes de réduire le risque d'attraper une maladie virale respiratoire. OK, aucune. Donc, il y a eu plusieurs études très sérieuses. En anglais, on appelle ça des randomized control trials avec verified outcome. Alors, ça veut dire qu'on teste vraiment si la personne a été infectée. On lui demande pas c'est quoi vos symptômes, quand est-ce que vous avez eu des symptômes. En utilisant des mesures de laboratoire, on établit que la personne a été infectée. Alors, si on prend que des mesures comme ça, où on élimine toute chance de biais dans la mesure, dans l'observation, il y en a eu plusieurs. Et toutes ces études-là n'arrive pas à déceler un avantage statistiquement valable de porter un masque versus pas en porter un par rapport à l'infection.
Ce serait quoi dans ce cas-là les désavantages de porter un masque? Parce que vous êtes au courant, M. Rancourt, comme moi, on a vu dès le départ, l'OMS s'affichait comme quoi que le port du masque n'était pas obligatoire, n'était même pas suggéré pour les personnes en santé. Et depuis quelques semaines, on regarde dans les informations de l'Organisation mondiale de la santé. On semble avoir enlevé complètement les messages qui disaient que le masque était néfaste pour les personnes en santé. Puis aujourd'hui, on semble avoir changé notre fusil d'épaule. Puis on encourage fortement, à travers l'OMS et à travers nos gouvernements, le port du masque. Ce serait quoi les désavantages?
Mais premièrement, il faut dire que ce changement-là est vraiment surprenant parce que ça fait une décennie que tous les organismes de la santé, à peu près dans tous les pays internationaux, disent qu'ils ne recommandent pas le port du masque dans la population générale. Et souvent, ils vont expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des dangers associés à ça. Et ils vont expliquer ces dangers-là. Il y a des recherches qui montrent le potentiel de ces dangers-là. Bon. Et là, du jour au lendemain, l'OMS change son fusil d'épaule, change complètement sa position.
Pensez-vous que c'est des moyens de pression de l'élite mondiale en haut qui subventionne à coups de millions de dollars l'OMS?
Ben, personne ne m'a informé là-dessus, je ne sais pas. Mais c'est, de toute évidence, ça a été une décision politique. Ça a été une décision qui n'avait rien à faire avec la médecine. Ou la science. C'était politique et ça a des grandes répercussions. Et ça montre à quel point l'élite tient à ce que la population soit convaincue du bénéfice du masque. OK? Puis là, on peut se poser la question pourquoi. Il y a des dangers associés au masque. OK? L'OMS elle-même, tout en recommandant l'utilisation des masques dans la population générale, dit, mais par contre, il faut tenir compte du fait qu'il y a des vrais dangers qui sont potentiels, puis les énumère.
Ouais.
En d'autres mots, c'est comme s'il le recommandait à reculons.
Ouais.
Et OK, donc il n'y a aucun avantage qui a été démontré scientifiquement de la part du masque et il y a plein de dangers potentiels.
Il n'y a aucune recherche scientifique non plus qui justifie le port du masque.
C'est ça que je veux dire. Il n'y en a aucune.
D'accord.
Aucune. Et j'ai fait la revue de ces recherches-là qui ont cherché un avantage et qui n'en ont jamais trouvé. Et j'ai fait une revue détaillée de ces recherches-là. Et on a écrit avec mon association, j'ai été co-auteur sur une lettre, on a écrit au directeur général de l'OMS et on a dit, écoutez, qu'est-ce que vous faites là? Voici les données, voici les conclusions de tous les articles. Et votre position, même jusqu'à ce jour-là, c'était que vous reconnaissiez les dangers qui pouvaient être associés à ça. Puis il n'y a aucune raison d'avoir changé. Voici des exemples des articles les plus influents qui prétendent qu'il y aurait maintenant un avantage pour le port du masque. Et voici en quoi ces articles-là, c'est complètement, je vais dire en langage commun, de la foutaise. Là. Et d'ailleurs, les articles ont été... Il y a eu des demandes qu'ils soient retirés par des associations, par des groupes de chercheurs. Il y a eu des critiques très sévères des quelques articles là, qui ont dit de telles bêtises. Et donc, on a écrit à l'OMS une lettre de 9 pages très détaillée et aussi on a énuméré les dommages qui peuvent avoir lieu si vous faites ça.
On n'entend jamais vraiment parler des dommages à travers les médias conventionnels non. Où on n'entendra pas parler. Ça serait quoi, par exemple?
Premièrement, l'OMS elle-même, le plus grand danger qu'ils reconnaissent et qu'ils décrivent depuis toujours dans la littérature, etc., c'est que quand on porte un masque, ça accumule les substances qui sont dans l'air, ça les arrête sur le masque, ça les accumule. Donc, des gouttelettes qui ont des pathogènes, qui ont des virus, des gouttelettes, des particules, etc., ça les accumule sur un matériau près de notre visage, près de notre bouche, notre nez, nos yeux. Ça les concentre. Mm-hmm. Et inévitablement, donc, la personne va toucher, bouger le masque et se toucher, et toucher d'autres personnes.
Ouais.
Donc, c'est un instrument qui concentre les pathogènes près du visage de la personne et que la personne va ensuite transporter avec elle pendant tout le temps du port du masque. Qui ensuite, elle va être obligée d'enlever le masque. Qu'est-ce qu'elle va faire avec le masque? Comment est-ce qu'elle va se débarrasser du masque? Où est-ce qu'elle va le mettre en storage avant de le remettre le prochain jour ou à la prochaine sortie, je ne sais pas. Donc, ce danger-là a été considéré un danger très sérieux et très réel parce que les tests qui avaient été faits dans le milieu clinique où les cliniciens avaient été entraînés sur la porte du masque, où le masque doit être jeté après l'utilisation.
D'accord.
Et où il y a une certaine façon de le mettre et de l'enlever. De ne pas l'ajuster, de se laver les mains immédiatement après. Il y a tout un protocole médical sur l'utilisation du masque en milieu clinique. Et donc, et les associations ont toujours dit, ben, ça serait difficile de s'attendre à ce que la population générale suive un tel protocole. Donc, il y a des risques, ça rempire les choses plutôt qu'aider. Donc, ça, c'est un danger admis de la part du masque.
Sur YouTube, par exemple, des gens qui ont fait des tests, notamment avec le port du masque, la respiration l'oxygène, le niveau d'oxygène qui descendait et on atteignait un seuil limite, là, 89, je crois, de taux d'oxygène, on rentre en hospitalisation dans les hôpitaux. Là.
C'est sûr que ça contraint la respiration. Et chose importante, c'est qu'à mesure qu'on le porte, surtout dans l'été, quand c'est humide, il y a condensation, accumulation d'humidité sur les fibres et ça bloque les pores du masque. Donc, c'est de plus en plus difficile à respirer à travers le masque, juste avec l'humidité normale qui vient de notre respire, etc. Et ça, c'est très sérieux, là. C'est plus le masque idéal qu'on a testé en laboratoire. Ça devient un linge mouillé qu'on a sur le visage, je veux dire, essentiellement, là, si on simplifie. Et c'est très difficile, c'est presque une torture d'essayer de respirer avec ça.
Exactement.
Okay? Et en plus, ça ne fonctionne absolument pas. Dès que le masque est bouché de cette façon-là par l'humidité, d'expirer, ça soulève le masque. Même s'il est bien ajusté, ça le soulève. Mm-hmm. Les masques sont même pas bien ajustés. Les particules aérosols dont je parlais, les plus fines tailles, la fraction de plus fine taille, elles vont passer là où l'air passe. OK? Donc, à côté du masque, là où il y a des pores un peu plus grandes, là où il y a des défauts sur la peau, etc., s'il est bien ajusté, si c'est un masque sophistiqué plutôt que juste un masque chirurgical ou autre, ça arrête en rien les particules aérosols qui, elles, transmettent le virus, ni à l'entrée, ni à la sortie. OK, ça c'est clair, mais revenons au danger du masque. Par exemple, si on accumule des particules dans un système dans un environnement humide comme ça, etc., est-ce que des plus grosses particules qui sont arrêtées par le masque vont finir par se briser ou s'évaporer ou faire en sorte qu'il va y avoir des particules qui normalement on n'aurait pas respirées, que maintenant on a fait entrer sur le masque, est-ce que ça, elles vont finir par nous infecter? Parce qu'ils sont en proximité, puis on ne connaît pas les réactions qu'il va y avoir sur le masque.
Quand on est une organisation aussi grande que l'Organisation mondiale de la santé, comment on peut, peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais comment on peut arriver à s'appuyer sur des études probablement biaisées, parce que j'imagine qu'ils se sont appuyés sur quelques études pour pouvoir changer leur fusil d'épaule?
Écoutez, quand on fait une politique draconienne qui va complètement changer la société et la vie des gens, il faut que ça soit basé sur quelque chose de solide. Il faut être certain que les études scientifiques qu'on utilise ne sont pas biaisées. Donc, on ne doit utiliser que les études les plus fiables, les études où le design expérimental de l'étude est tel à éviter que ça soit un résultat biaisé. On ne peut accepter que des études comme ça. Mm-hmm. Voyez-vous, il s'est passé quelque chose de bizarre. On s'est dit, puisqu'on a déclaré que c'est une pandémie, donc c'est une pandémie, donc il faut sauver le monde, donc on peut admettre des études scientifiques qui sont pas du haut standard habituel. Parce que ça nous prend des informations, puis il faut utiliser toutes les informations, puis toutes les informations, c'est mieux que moins d'informations, même si c'est des mauvaises informations. OK? Alors, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Quand il y a une panique, quand il y a une pandémie, quand on essaie de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, il faut utiliser les meilleures données, uniquement les meilleures données. On ne peut pas se baser sur des choses biaisées, des choses à moitié faites, des choses préliminaires pour établir des politiques draconiennes. C'est comme le monde à l'envers.
Ouais.
C'est une logique inverse. C'est comme, ils vont dire, c'est parce qu'on applique le principe de précaution. C'est complètement ridicule de dire ça. Le principe de précaution, c'est le contraire de ce qu'ils font. Ouais. Le principe de précaution, c'est que le gouvernement, avant d'appliquer une politique draconienne, doit être certain qu'il a éliminé la possibilité des dangers potentiels.
Ouais.
Si on a un manque de données, on ne peut pas appliquer la politique draconienne. C'est ça le principe de précaution.
C'est s'abstenir.
Le gouvernement ne peut pas risquer de faire du tort s'il n'y a pas vraiment une bonne information qui démontre qu'il doit faire cette politique draconienne. C'est ça le principe de précaution. Alors là on est rendu là dans un monde de fous où même les scientifiques vont dire « Ouais, c'est vrai, mais j'en connais un. Ouais, c'est vrai, mon étude ne montre pas un avantage à porter le masque, mais par le principe de précaution, je vais quand même le recommander dans mon article. J'ai aucune donnée qui appuie ça, mais je vais faire le commentaire que c'est quand même bon de Ouh là là!
On a cette mentalité-là que si tu mets le masque, c'est pas pour toi nécessairement, mais c'est pour le bien d'autrui, pour sauver la vie des gens autour de toi.
C'est souvent, l'argument est souvent tourné à l'envers comme ça. La même chose est vraie par rapport à la liberté de parole. Hein? Les droits, les personnes vont argumenter qu'ils ont le droit de te faire taire parce que tes mots peuvent leur faire du mal. Okay? C'est comme une espèce de logique.
Distorsion.
Une distorsion. C'est une justification pour la censure, pour des actions absurdes des gouvernements. On est dans l'absurde, là. On est dans un monde d'absurde. Il n'y a aucune démonstration que si je porte un masque, ça va diminuer ton risque d'avoir l'infection. Il y a plein de mesures qui ont essayé de déceler un tel effet. Ils n'ont jamais décelé un tel effet. S'il y avait un effet significatif dans ce sens-là, ça aurait été décelé dans les nombreuses études comparatives sérieuses sans biais. Okay? Mm-hmm. Il n'y en a pas eu. Donc, l'argument ne tient pas. C'est de l'invention.
La peur.
Oui. C'est comme, on peut dire, t'as pas le droit de tirer de la carabine en ville près des gens des régions peuplées, même si tu te dis c'est pas mon intention de tuer quelqu'un, là, j'essaie de frapper la cible, mais si vous marchez devant, mais c'est
votre responsabilité, vous risquez péril.
Ouais. Ça, ok, on voit le vrai danger. Ça a été établi. On n'a pas besoin d'un scientifique expert pour nous dire qu'il y a un vrai danger. Mais jusqu'où on va aller avec ça, ouais. quand on diminue le lien entre l'action de l'individu et le danger à l'autre, et qu'on le diminue à un point où c'est même plus mesurable.
Ouais.
OK? C'est même plus mesurable par la science. La science la plus avancée, la plus sophistiquée qu'on possède, qui a essayé et qui a designé des études pour déceler cet effet-là, qui ne peut pas le déceler.
On recommande fortement le port du masque à certains endroits, et même dans certaines villes, on a tendance à vouloir le rendre obligatoire. Selon vous, est-ce qu'il se cache quelque chose derrière le masque, comme par exemple l'asservissement d'une population, le porter une population à la soumission ou au silence?
Bien, à mon avis, c'est pas tellement caché, parce qu'il y a pas de raison, il n'y a pas de base scientifique. Et de toute évidence, ce que l'OMS a fait est une action politique. Donc, c'est pas très caché que la vraie raison n'est pas basée sur la santé publique. Ça, c'est clair. J'en suis venu à la conclusion que la raison d'insister, la raison que l'establishment veut à tout prix qu'on accepte le masque comme méthode de se protéger, c'est parce que c'est un acte concret où le citoyen admet qu'il est en danger d'un pathogène. Donc c'est une façon d'impliquer la personne dans cette croyance stupide et fausse qu'il y a un virus qui cause une maladie respiratoire qui a une qualité différente que tous ces virus-là des décennies passées. Ça fait croire à l'individu que le gouvernement donne des bonnes recommandations pour le protéger, alors que le gouvernement garde les gens en danger et fait... Si par exemple, on s'attardait à savoir quels sont les vrais modes de transmission, quelle est la vraie raison, la raison principale, dominante, qu'il peut y avoir des hautes mortalités dans certains endroits, dans certaines institutions. Dès qu'on se pose ces questions-là, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir avec les masques et que ça a beaucoup à voir avec une responsabilité des gouvernements et des organismes pour protéger ces gens-là et pour trouver les vraies causes de ce danger. Comme par exemple, puisqu'on comprend que c'est des particules aérosols fines qui transmettent la maladie, ben c'est pas un masque dans un institut où il y a une haute densité de ces particules-là qui va vous aider. Il y a une question importante qui est celle que ça habitue la population à accepter des directives qui sont absurdes, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de base scientifique. Ça habitue les gens à faire ce qu'on vous dit parce qu'on vous le dit puis qu'on vous dit que nos experts et nos médecins disent que c'est la bonne chose. Ouais. Donc, il y a une accoutumance qui se crée qui est très néfaste à la société.
On croit sans se poser de questions, sans faire de recherche nous-mêmes.
Oui, et on crée cette accoutumance-là et on habitue la personne à réagir de cette façon-là. On a entendu pendant 3 semaines sur les médias qu'il y a une pandémie, on nous recommande de faire telle chose, donc on va le faire. Et parce que cette accoutumance-là, c'est très important ce point-là, et d'ailleurs on a parlé dans notre lettre à l'OMS, c'est qu'il y a une étude scientifique récente qui a été faite juste l'année passée par justement le directeur de mon association et le premier auteur de cette étude en physique, qui est une étude de la physique théorique de la société. Et cette étude-là, qui a été publiée dans un grand journal, explique que la société a une évolution progressive qui a une dégradation vers un état totalitaire dépendant des paramètres dans la société. Et les deux paramètres essentiels qu'ils ont identifiés, c'est le niveau auquel la société est autoritaire. Ça veut dire, est-ce que l'individu a une bonne chance de réussir s'il s'oppose à une règle arbitraire? Si l'individu a très peu de chances de s'opposer à une telle règle, ça veut dire que la société est très autoritaire. Ça, c'est un des paramètres. Et l'autre paramètre dans le modèle qui est très puissant, qui a été développé, c'est le niveau de violence dans la société. Et donc, dans cette application-ci, le niveau de violence, c'est à quel point est-ce que l'amende pour ne pas payer le masque est élevée. Est-ce qu'on risque d'aller en prison, etc., si on insiste vraiment? Est-ce qu'on risque de se faire physiquement pris et enlever des lieux, etc.? Donc, à quel niveau est-ce que les conséquences sont violentes?
Okay?
Donc, ces deux paramètres-là déterminent si la société est une société qui peut progressivement aller vers l'état totalitaire. Il y a comme ce qu'on appelle un diagramme de phase, là, puis dépendant de la valeur de ces paramètres-là, la société peut être une société qui peut évoluer graduellement vers un état totalitaire. Et donc le Canada et les États-Unis, quand on regarde les données et qu'on compare avec des choses mesurables, seraient des états comme ça. Oh oui. Et donc l'accoutumance à recevoir des ordres et ne pas les contester, ça ne frustre pas cette dégradation vers de plus en plus un état totalitaire. Alors que de s'opposer, ça maintient l'équilibre et ça ramène un peu les choses vers un état plus libre et démocratique.
Est-ce que vous diriez que on s'est peut-être servi d'une fausse pandémie pour arriver à tranquillement enlever certains de nos droits et libertés?
Moi, ce que je crois, vous me demandez mon opinion, là, évidemment, je ne connais pas ces gens-là, puis je n'ai pas l'occasion de discuter avec eux, mais ce que je crois, c'est que les gens qui gèrent la structure et le design de la société, hein, l'élite globaliste mondiale, les gens les plus influents qui influencent les Nations Unies, qui mm-hmm. influencent tous les gouvernements, etc., ces gens-là, sans cesse, font des choses pour maintenir leur pouvoir et pour maintenir l'obéissance et à ce que les gens, la population, acceptent la structure de la société. Et c'est continu, ça. Il y a une grande créativité, ils ont beaucoup de chercheurs, ils ont beaucoup de meetings et ils font ça constamment.
Est-ce que c'est justifié de rendre le monde malade, de rendre nos enfants malades dans un retour à l'école où ils sont obligatoires, c'est obligatoire pour eux de rester dans leur petit cercle puis de pas dépasser ça pour respecter le 2 mètres? Il semble y avoir des contradictions. En France, c'est 1 mètre. À l'école, c'est 1 mètre et demi parce que les enfants sont plus jeunes, moins de risques de propagation. Puis nous, ici au Québec ou j'imagine en Ontario, c'est la même chose parce qu'on tourne l'entrevue à Ottawa aujourd'hui. 2 mètres de distanciation sociale, c'est un peu farfelu. Est-ce que des études scientifiques qui justifient ça? Où on en est là-dedans?
OK. J'ai même pas envie de parler des études scientifiques parce que c'est tellement absurde. Je veux dire, on peut démontrer dans une mesure que les gouttelettes de crachats vont tomber en dedans d'1 mètre ou 2. On peut démontrer ça, mais c'est pas ça la question. La question est, quel est le mode de transmission le plus probable de ces maladies? Et c'est les très fines particules aérosols, un point, c'est tout. Donc, tout le reste... Il y a des études sérieuses comparatives qui ont montré que la distanciation et même se laver les mains, ça n'a à peu près pas d'effet. Les masques aussi, ça n'a pas d'effet. OK? Mais on peut faire une mesure où on démontre qu'un virus va vivre un certain temps sur une surface. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça le mode de transmission. Ouais. Ça veut juste dire qu'un virus peut vivre un certain temps sur une surface. Et pour connaître le mode de transmission, il faut faire des mesures contrôlées qui démontrent ça. Mm-hmm. Et il faut utiliser... C'est une recherche interdisciplinaire qui doit être sérieuse. Et donc, les études les plus fiables que j'ai lues montrent sans ambiguïté les particules aérosols, c'est pour ça que c'est saisonnier, c'est pour ça qu'il y a une charge hivernale de mortalité, etc., etc. De toute évidence, ils sont allés trop loin. C'est complètement aberrant de faire vivre des enfants dans une bulle.
De plus en plus, on l'entend à la télévision, on l'entend dans les médias, on l'entend de la part de nos politiciens. C'est comme si on nous dit qu'il y a new normal.
On est déjà dans une certaine dystopie. Dystopia?
Oui, dystopie. Ouais. Fiction.
Fiction. Parce que on voit que la grande majorité de la population, en tout cas la classe moyenne et professionnelle, a accepté toute cette non-sense. Mm-hmm. L'a avalée de toutes pièces et est prête à la défendre et à la propager. Alors, comment ça peut arriver ça? Comment ça peut arriver que quelque chose qui n'a aucune base scientifique, qui est complètement stupide et aberrant, inventé de toutes pièces parce que des maladies respiratoires, virales, il y en a toujours, à tous les hivers, partout, c'est-à-dire dans cette bande de latitude oui, oui. là où ça existe, où la maladie est transmise. Alors, comment c'est possible de nous avoir convaincus de ce virus magique qui peut tuer instantanément, de façon accélérée, partout dans le monde en même temps, puis tout ça? Comment ils sont arrivés à nous convaincre que tout ça, ça avait de l'allure?
Je vous dirais même plus que ça. Comment on est arrivés, nous, à accepter de faire 20 minutes d'attente à l'extérieur avant de rentrer dans un magasin ou dans une épicerie ou à la SAQ? C'est aberrant.
C'est aberrant. On est devenus des zombies. On accepte des choses parce qu'on nous dit qu'il y a un danger invisible là, qui nous attend.
Vous parlez de particules depuis le début de notre conversation, ça se maintient dans les airs. C'est la façon plus plausible d'attraper un virus par voie respiratoire, notamment. Ces particules-là restent combien de temps dans les airs?
Vous savez, on pense qu'on sait beaucoup de choses, mais on sait toujours beaucoup moins que les choses qu'on sait. On sait que il y a des mesures qui démontrent que ces particules-là ont moins de 2 micromètres de diamètre. Et que quand elles ont à peu près 2-2,5 micromètres de diamètre, que dans un air sans courant, elles peuvent rester en suspension, disons, quelques heures. Okay? Mais dès qu'il y a des courants, dès qu'il y a des mouvements, et aussi, les particules peuvent être beaucoup plus petites que ça, qui sont encore plus en suspension, qui sont plus... Ça ressemble, plus la particule est plus elle se comporte presque comme une molécule. C'est-à-dire, les molécules, la gravitation aura à peu près pas d'effet sur elle. Donc, vous savez, c'est très difficile de mesurer la distribution des tailles des particules et le type de particules et combien il y a de virions, de virus dans chaque particule. Ces mesures-là sont pas évidentes. Il y a des mesures très poussées qui peuvent être faites, mais il y a toujours des techniques expérimentales. Il faut recueillir un échantillon. Mm-hmm. Il faut ensuite faire... on ne peut pas aller identifier chaque particule, donc on...
Direct et balado jusqu'à 10 heures ce matin. Concernant les cas de COVID-19, on est rendu à 13 millions 3. En vacances, direct et balado jusqu'à 10 heures ce matin sur la radio planétaire en direct du centre-ville de Québec.
Pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes. C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je t'ai aimé. Chaque mille que je parcours me semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Je vois ton visage qui me hante. Je me demande pourquoi je t'ai guidé. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir quand je t'ai aimé. Un jour quand mes voyages ont repris feu et qu'au fond de moi j'aurais trouvé cette paix dont je sentais le besoin, à ce moment je pourrais m'arrêter. Mille après mille, je suis triste. mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comment je peux t'aimer. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour sur la route, tu ne peux pas savoir comment je peux t'aimer.
Fait tourner les meilleurs succès radio numéro 1 de tous les temps. D'hier à aujourd'hui.
Quand je l'ai vue, elle marchait seule dans la rue chantant Elle ondulait des hanches comme une ingénue chantant Les yeux bleus,
les yeux bleus,
la taille fine,
la taille fine,
les yeux bleus, la taille fine, j'en suis presque devenu fou. Ensemble matin, midi et soir, chantant de nous vivons la plus merveilleuse des histoires, chantant de
Oh,
Les BCT Rollers, vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux. Et on est dans une belle journée d'été. C'est vraiment une belle journée d'été de ce 15 juillet 2020. Et le ministre Fitzgibbon au gouvernement du Québec va avoir du pain sur la planche, effectivement. Concernant le Cirque du Soleil, il est en train de jongler avec le 200 millions et plus là, qu'on voudrait investir dans cette compagnie-là. Mais on attend qu'une compagnie qui a les reins solides, qui va prendre ça en main avant de vous d'investir cet argent-là, pour pas que ça devienne encore un autre panier percé. Pareil comme la montgolfière chinoise, là. La grosse montgolfière qu'on veut construire, Flyer et compagnie. Donc, c'est encore un autre montant de 30 millions, ça qui aurait été décaissé. Donc, on va bien voir qu'est-ce qui va en résulter, qu'est-ce qui va arriver avec ça. Concernant l'aide au Cirque du Soleil, ben c'est conditionnel. L'aide est conditionnelle tout simplement à l'investisseur qui prendrait le contrôle de la compagnie. Il y a des dizaines de pharmaciens qui sont accusés par le syndic de leur ordre professionnel d'avoir laissé une entreprise pharmaceutique accéder aux dossiers confidentiels de leurs clients l'an dernier dans l'espoir de toucher une ristourne en argent. Imaginez-vous de bien, ça va bien, hein? Alors, ce sont 73 pharmaciens affiliés à la bannière Jean Coutu qui sont visés par la plainte disciplinaire. Ils travaillent à Montréal, Québec, Sherbrooke, Terrebonne, Drummondville, Thetford-Mines, Brossard et ailleurs au Québec. On leur reproche de ne pas avoir respecté le secret professionnel et d'avoir fait usage de renseignements confidentiels pour leur propre bénéfice. Alors, on va bien voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. C'est pas évident. À part ça, qu'est-ce qui se passe de bon? À part de ça, qu'est-ce qui se passe à Saint-Apollinaire? On n'a pas retrouvé Carpentier encore. Alors, soit qu'il a trouvé un vélo ou un moyen de transport, puis il a disparu dans la nature, ou il est tout simplement décédé. On n'a pas de nouvelles encore sur ce dossier. Le milieu littéraire qui est ébranlé par le mouvement de dénonciation, évidemment. Alors, le milieu littéraire fait face lui aussi au mouvement de dénonciation lancé le lundi. Il y a une dizaine de jours, un groupe de 300 autrices et actrices de la chaîne du livre s'est formé de manière privée pour échanger des propos de cas d'inconduite sexuelle dont beaucoup ont été victimes. Alors, on verra bien qu'est-ce qui va arriver avec ça, là. Une trentaine de clients de bars montréalais atteints de la COVID-19 à Montréal. Et même, on a fermé un bar, même, qui respectait pas la distanciation et les règlements. Donc, il y a eu amende et fermeture du bar. À part ça, qu'est-ce qui retient l'attention? COVID-19, progrès vers un vaccin aux États-Unis. Et reconfinement dans plusieurs villes. Le bilan de la pandémie dans le monde, plus de 578 000 morts. À part ça, qu'est-ce qui retient l'attention? Ce qui retient l'attention, bien, c'est la pandémie. C'est le port du masque qui va être obligatoire à partir du 18 juillet. Donc, c'est nota bene. Et là, on parle de donner des amendes aux commerçants. Alors, imaginez-vous les commerçants qui vont être obligés de jouer à la police. Ça va être un vrai free-for-all. Et c'est loin d'être bon pour l'économie. Les gens devraient plus conscientiser les gens à respecter les règles de distanciation et de lavage de mains. Je pense que c'est ça qui serait le plus important. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiatlux.ca dans l'émission GFP en vacances, direct et balado. Et je vous accompagne jusqu'à 10h ce matin et de 16h à 18h du lundi au vendredi. En balado des fois, puis des fois en direct comme c'est le cas présentement.
Yeah.
Vous écoutez Opération Vacances sur radiofiatlux.tk avec Georges Fernand Poirier jusqu'à 10h ce matin. Portez-vous bien, il fait beau à part ça. La canicule devrait recommencer d'ici quelques jours. Mais en attendant, on est bien. On est juste bien. On peut dormir bien la nuit. Avec un bon petit vent. Passez une belle journée et des belles vacances. Un bon voyage. Écoutez-nous sur vos téléphones. Il n'y a rien là.
Peut-être
fin de la fête. J'aurais voulu t'aimer, t'aimer, t'aimer. J'aurais voulu t'aimer et prendre un peu de place. Je ne t'aurais rien volé, il n'y aurait pas eu de cas. J'avais envie d'aller où ton monde s'arrête et pouvoir te toucher pour enfin te connaître. Je voulais tout risquer, même ne pas te plaire. J'ai pas su nous garder, je n'ai su que me taire. Alors le cœur largué à la fin de la fête, j'aurais pu t'aimer. J'aurais voulu t'aimer, t'aimer, j'aurais voulu t'aimer.
À Montréal, dans un grand Bowie bleu de mer, j'ai besoin de me voir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendu droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étendu entre le cristal et le verre, où viennent se poser des anges. Je reviendrai à Montréal écouter le vent de la mer se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux voir le long des airs des rues qui n'en finissent pas, qui vont jusqu'au bout de l'hiver sans qu'il y ait trace de pas. besoin de sentir le froid. Courir au fond de chaque pierre et rejaillir au bord des toits comme des glaçons de bonbon clair. Je reviendrai à mon dans un grand Boeing bleu de mer. Et je reviendrai au national me marier avec l'hiver, me marier avec l'hiver. Merci Montréal, à bientôt. C'est chaud dodo.
Eh oui. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux, GFP, présentement en direct. Alors, le temps de prendre une bonne petite douche puis de se laver les dents. Hey, j'entends jamais ça à radio, moi. Es-tu lavé les dents, matin? Tu sais, dans le fond, c'est tellement important, l'hygiène buccale, quand on y pense. À part ça, qu'est-ce qui retient l'attention de ce matin? On a diffusé à partir de 7 heures. On va peut-être le rediffuser après l'émission à 10 heures. Ceux qui ont manqué, le docteur Rancourt, qui nous parle un petit peu d'épidémiologie. D'épidémiologie, exactement. Qui nous parle de la COVID-19 et c'est le fun d'entendre aussi l'opinion contraire. Moi, j'aime ça entendre l'opinion contraire des affaires. Puis j'aime ça aussi des statistiques. Parce que lorsqu'on a des statistiques, on est mieux en mesure avec des chiffres d'avoir un compte-rendu quand même avec des chiffres. Puis je vous dis ça de même parce que mon grand-père, du côté de ma mère, il était doctorat en statistique. Et souvent, il travaillait au gouvernement du Québec, puis souvent, les statistiques, les chiffres, ça parle. Alors, c'est ça qui est intéressant. À part ça, qu'est-ce qui retient l'attention? Bien, il y a toujours la COVID-19 qu'on entend parler. Il y a le Vieux-Québec qui va fermer de tout bord, de tout côté. Il va falloir s'acclimater, s'habituer. Même si on n'est pas d'accord avec ce qui arrive, certains sont pas d'accord, c'est pas évident. L'accident qui est arrivé à Saint-Apollinaire. Alors, on n'a pas encore trouvé le fugitif en question, Carpentier. C'est quoi qui s'est passé exactement? C'est encore le flou. Et la Sûreté du Québec refuse de donner quelque information que ce soit. C'est le silence total en attendant. Parce qu'on peut pas, on n'a pas la clé de l'énigme. Et vous savez que la clé de l'énigme, c'est de retrouver Carpentier. Mais on ne l'a pas trouvé. Alors ça ferait peut-être une bonne histoire, ça, avec X-Files, là. Tu sais, le gars, il a peut-être été ramassé par un ovni, là, puis il est disparu. Là, on le trouve plus. Ça ferait peut-être encore des ragots à raconter de nos spécialistes ufologues qu'on entend, là, ces gourous-là qu'on entend qui nous parlent d'extraterrestres puis de soucoupes volantes. Ben, c'est ça. Alors, c'est vraiment une énigme. Est-ce qu'il est décédé? Est-ce qu'il a réussi à se trouver un moyen, soit par un vélo ou autre, pour se sauver, s'en aller plus loin? Est-ce qu'il a contacté quelqu'un? Est-ce qu'il y a eu de l'aide? On ne sait pas. On sait rien à date. À part de ça, on parle de dépistage. Alors, à Montréal, c'est ça. On parle de ça dans les médias. On parle de COVID-19, de cliniques de dépistage mais assez majeures. On veut, même François Legault parlait d'un maximum de 16 000 par jour. On voulait en dépister 16 000 par jour. Est-ce qu'il va réussir? Ça, c'est une bonne question. À part ça, ben il y a le chef du Bloc québécois qui est dans l'eau chaude présentement. Alors, il s'est fait avoir par un troll. À part de ça, il faut que je vous parle de ça. Moi, ça m'est déjà arrivé, puis je connais des gars du monde qui travaillent à Radio X présentement, qui ont fait du bashing sur des sites Internet il y a plusieurs années contre GFP via le site Radio Ego et le site Radio Réveil. Souvenez-vous. Un troll, c'est un troll. Il n'a pas le courage de s'identifier. Alors, comment peut-on qualifier la crédibilité de ce qui est avancé par le troll. Alors, on décide de s'attaquer à M. Blanchet, le chef du Bloc québécois, alors que c'est un troll. Puis même, il lui a demandé de porter plainte en cour pour avoir des preuves, puis de s'identifier, parce que c'est illégal de dire des menteries sur des sites Internet, quelque site que ce soit. Voyez-vous comment est-ce que c'est pas évident, c'est pas reposant. Vous êtes à l'antenne de radiofiatlux.ca. On va écouter, on va écouter une bonne vieille toune. Bon, attends un petit peu, on va... Une bonne vieille toune de Loco Locas, que ça fait longtemps que j'ai pas entendu. Attendez un petit peu, il faut que je connecte de quoi. J'ai oublié de connecter mon fil. Attendez un petit peu. Bon. On va la remettre au début. Bon, il n'y a pas, tu sais, on n'est pas, pas de presse. Il n'y a pas de presse. Il ne faut pas s'énerver une journée après l'autre. Bon, attendez un petit peu. Alors, on écoute Loco Locas. Vulgus Comte Sanctus.
Pendant longtemps. S'est contenté, pour ainsi dire, de se faire oublier pour survivre. Puis, il s'est dit que pour durer valablement, il faut aussi s'affirmer. Et ensuite, que pour bien s'affirmer, il peut devenir souhaitable et même nécessaire. De s'affranchir collectivement.
Vous êtes non. Mais si vous dites non, madame, là, vous allez vous écraser, on va vous dire où aller. Moi, je me base là-dessus, puis je me dis que si le Québécois change, modifie un peu les mentalités, qu'il cesse de penser qu'à sa musique, qu'il décède d'une fois pour toutes de prendre le bœuf dans les jambes, comme il faut que ça ait plus. Sans le menacer, voilà, sans le bourrasser, juste, dans la lignée d'appel, on va envoyer vers là. Ça va être inquiété, si on a du potentiel, hein, du potentiel, hein.
Souveraineté, c'est le sentiment de fierté, d'accomplissement et de responsabilité joyeuse que ressentent infailliblement tous ceux qui, pour la première fois, entrent dans un foyer qui est bien à eux, qui leur appartient sans conteste, et qu'ils ont le droit de meubler, d'aménager et de décorer à leur guise.
À toi, m'envoyez mon déjà, mais mec, le goût qui pourra me répondre à quel prix, je vois très bien.
Pour aller jusqu'à 125, 450
millions.
Calcul, spécule sur le pécule culturel, le PQ pogne le cul de la culture qui jouit au bon moment. Oui, maman, je me souviens, mais je pense à demain. Car quand la contrainte, mes reins, je l'étreins, c'est que la fin sanctifie les moyens.
Depuis 1760, la king nous rend tout. Nous swing, ça suit, mais je suis resté cendre de la
race à n'importe quel prix.
Parce que, comme dit le doyen, la fin sanctifie les moyens.
Hey, réveille, on tente de faire sortir le bateau de la bouteille. Mais quand on lâche sa mort, tu restes au bord. Mort à l'instant d'un vieux Lazare. Malgré l'histoire, j'ose croire en la croisée des chemins. Car je sais que la fin sanctifie les moyens.
J'fais des appels à la belle, mais j'ai fait la matrice du tributaire du lac.
C'est trop, mais c'est tard
de discuter de
pause, plus t'es pide, excusez, c'est ça et tout pour le bénéficiaire.
La longue marche vers l'indépendance, sincèrement, j'pense que la fin sanctifie les moyens.
T'as pas le travers au soir, il de Marie Travers, tu me dis qu'elle démagogue, j'ai que de sur son gigot, moi j'appelle ça les travers du réel. Politique, oui, Montréal, j'suis barbe, donne mon salut, madame à l'autonomie. Fait que m'y reste, j'irai ma maman le détonie. Plus ni moins, car la fin, quoi, car la fin,
hein,
car la fin sanctifie les moyens.
Le travail est partout, on t'a fourré. Fourré par Québec. Faut dire que les gars qui prennent pas de responsabilité, hein, qui se disent manœuvrer par Ottawa, si tu faisais faux fourré par un, tu faisais fourré par l'autre, d'une manière ou l'autre, t'as tout, mais tu me dis que les gars t'as pas appris.
Véhicule, partie véhicule, m'amène à la Mecque, j'en pense de vulgaire.
C'est une utopie, deux fois séculaire, c'est du clair.
Et deux pieds dans ma case, c'est correct.
Je n'ai fait un rien d'air, nous, ce camp révolutionnaire.
On sur nos citoyens.
Enfin, ça justifie les moyens.
Poète, propre, prophète à genoux. Je nous projette un projet pro, progrès, proposé comme un prologue prometteur.
En dépit de la mort, de la torpeur et des pleurs malsains.
Je regarde plus loin de ma main, car la fin justifie les moyens.
Je tâche aujourd'hui dans
avoir become choking. Chante de continuer, sécurité située. Si vous êtes pour l'affranchissement, le défrichage, le changement,
le marchandage achalant,
la lâcheté, acheter. Les choix, un brin persien, mais la fin sanctifie les moyens.
Touche pas, tu vois le désert, des dérives, des reliquies, des désillusions politico-affectives. Trop pas pour moi ici, il s'agit pas d'Algérie. Quand vient le jour, j'arrive, je me barre demain, car la fin sanctifie les moyens.
Personne ne fait que peut-être, mec, c'est tout le jeu n'est qu'au mec. Je rappelle à ta mémoire, certains soirs, on soigne dans le noir, dans l'isoloir. Peut-être sur le code Molland, d'abord il va du bonheur, mais fait random run. Ne s'est pas construit dans un jour, j'en conviens. Mais tout vient d'un point de la qui se souvient que la fin sanctifie les moyens.
Lui, j'ai pas un fanat, tu prends fanat, viens de ta flamme, ton fanat. Les petits que ton plan, que petit que marque le mérant. Nous poitis un mal, donnons pas de passe. La fin sanctifie les moyens.
Il est donc de plus en plus assuré qu'un nouveau pays apparaîtra bientôt démocratiquement sur la carte.
Vous êtes en plein dans Opération Vacances, GFP en vacances, direct et balado sur Radio Fiat Lux Pointe et Couche, qu'à 10h. Et je vous rappelle qu'à compter de 10h, on rediffuse l'entrevue du scientifique, le docteur Rancourt, sur les ondes de Radio Fiat Lux à compter de 10h ce matin. Il va nous en parler du COVID-19.
L'autre jour à Tokyo, il a fait plus beau qu'en moyenne partout ailleurs. J'enlevais mon manteau, il faisait moins chaud en dehors qu'à l'intérieur.
Sur la taste like cocoa. Now if you wanna go and get away from the law, go down to Cocoa.
Oh, we're from Jamaica. Ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, Panama, pretty mama, Key Largo, Montego. Baby, why don't we go
down to Cocoa? We'll get there faster, then we'll take it slow. That's where we wanna go. We down to Cocoa.
Ooh, I wanna Jamaica. Ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, Panama, pretty mama, Key Largo, Montego. Baby, why don't we go
down to Cocoa? We'll get there faster, then we'll take it slow. That's where
la moindre rire au petit nez. Quand un étoile qui s'allume, voici un monde merveilleux, la rivière du monde lune et le chanson de l'oiseau bleu.
Yeah.
avec les meilleurs succès radio numéro 1 de tous les temps. Vous êtes dans GFP, Opération Vacances 2020. N'oubliez pas, compter 10 heures avec le docteur Rancourt sur la COVID-19. C'est un point de vue. J'aime ça écouter des opinions diverses. C'est ça qui est le fun, c'est ça la démocratie, c'est ça la radio libre. On écoute les opinions de tous et chacun.
Les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouer du piano debout, quand les trouillards sont à genoux, et les soldats regardent à vous, simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Il n'y a pour sa musique qu'il était patriote. Mort, genre de neuf, tel nord. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leur rêve, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire. Ma mémoire. Jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouer du piano debout, il chantait sur des rythmes fous, et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire essayer de vivre, essayer d'être heureux, ça vaut le coup. Était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux, et les soldats au garde à vous, simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez.
begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing you do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it.
Eh oui, on vous cassera pas la tête ce matin. On radotera pas, on vous cassera pas la tête avec le fameux COVID-19 puis le portage de masques puis tout ce que vous voudrez là qu'on entend continuellement en redondance tout le temps dans les médias. T'as beau changer de poste là. Alors, on va vous faire écouter la musique, on va se détendre. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Fiat Lux, point TK. Salutations à tous ceux qui sont en vacances. Vous nous écoutez au chalet, vous nous écoutez dans un avion. Vous nous écoutez peut-être dans votre auto, en balado-diffusion, les camionneurs, tous ceux qui nous écoutent à travers le Québec, on vous salue à travers le Canada, à travers la boule. Et je vous rappelle également qu'à compter de 10 heures ce matin, le docteur Rancourt, un docteur, c'est un scientifique de l'Université d'Ottawa qui va nous parler de la COVID-19. Et bon, son opinion, il y a différentes opinions, donc on va écouter l'opinion contraire. Alors, lui, ce qu'il dit, dans le fond, c'est une grippe. Puis il nous parle de statistiques. Je trouve ça intéressant. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux. Pointez que vous avez des commentaires. Texto 581-986-4472. Ou vous pouvez nous écrire, Georges avec un S, Fernand Poirier, @ymail.com. Bon, il y a une erreur, c'est pas ce tune-là que je voulais écouter, là. Bon, attendez un petit peu, là. C'est pas celle-là du tout. J'avais choisi pour vous une chanson de Richard Cosciante qui s'appelle Avec Simplicité. Puis comment ça se fait que je. Comment ça fait que je l'ai pas? Comment ça fait que je l'ai pas? On va la trouver, puis on va vous la faire jouer. Bon, je l'ai ici. Je l'ai ici. Bon. Alors, c'est une bonne vieille tune. Ouais, mais elle est en spectacle, ça. Quand c'est pas live, là. On va écouter celle-là en attendant que je trouve l'autre.
Surtout, ne m'en voulez pas trop. Si ce soir je rentre chez moi, j'ai tellement de choses à faire avant que le jour se lève. Et pendant qu'elle dormira, moi je lui construirai des rêves. Tu m'as dit des mots d'amitié, l'amour s'est glissé en moi avec simplicité. De tout petits mots parfumés d'oiseaux sont tombés du ciel. Je ne crierai plus au secours,
chagrin d'hier tourne court, c'est toi qui l'as tué. Avec simplicité, je t'emporte par la chanson d'amour inventée par toi avec simplicité. Qu'elle soit belle ou mal, ma chanson, elle suit le fil de ta voix avec simplicité. Je n'ai plus de fête sans toi, la seule fête pour moi, c'est seulement t'aimer avec simplicité. Et je sais très bien désormais pour qui j'ai envie de chanter. Tu me quittes une heure de ce mort. Je n'ai plus ni cœur ni corps. Je suis désenchanté par une ombre aux yeux de soleil qui a simplicité. Il y a ton orage dans l'air, il y a ton sourire sur la mer, il y a ton éclair, ton électricité.
Vous écoutez Opération Vacances GFP avec Georges Firmant-Poirier jusqu'à 10h ce matin sur radiofiatlux.tk. À compter de 10h, le docteur Rancourt va nous parler, un scientifique de l'Université d'Ottawa, va nous parler du COVID-19. C'est quoi? Et on va écouter ses commentaires, puis lui, qu'est-ce qu'il en pense?
Tellement tu pleures. même si je vais rentrer demain. Arrête donc de te plaindre, tu le sais bien que je m'en vais reviendre. Hier soir, je suis parti sago, j'ai tout fait, les clubs en ville. On a fermé le radio, moi pis le gros Bill. Mais y'a pas de quoi faire une crise, pis préparer tes valises. Tu le sais bien que je m'en vais viendre. Y'a rien à craindre, tu sais bien que je m'en vais bien. Fait qu'arrête donc d'en faire, pis de voir la vie tout en noir. Tu vas finir par te noyer, tellement tu pleures. Même si je vais rentrer demain, arrête donc de te plaindre. Je m'en vais reviendre. Tu le sais bien que je m'en vais reviendre.
Oui, un bon vieux succès, souvenir de Roger Whittaker. Vous êtes sur Radio Fiat Lux, dans GFP en vacances. Direct et balado. J'espère que ça va bien vous autres ce matin. La petite pensée du jour, on a tout le temps des petites pensées du jour de temps en temps, c'est le fun. Le bonheur, c'est comme du sucre à la crème. Quand on en veut, on s'en fait. Tomber n'est ni dangereux, ni honteux. C'est rester étendu par terre qui est à la fois l'un et l'autre. Le chemin du bonheur est tellement étroit qu'on ne peut y circuler à deux à moins de ne faire qu'un. Il y a un chemin qui s'appelle plus tard et qui conduit à un endroit qui s'appelle nulle part. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux. Ce qu'on annonce comme météo, ben c'est du vent, une température saisonnière. On est dans la normale de saison. La canicule devrait reprendre vendredi, samedi, avec 15 à 20 mm de pluie qui est prévue. Donc, on va prendre ce qui passe, puis c'est quand même, comme été, c'est quand même pas si pire que ça. À part la pandémie, là, qui continue, évidemment. On n'a pas tellement le choix. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat. On n'a pas le choix on est tous pris dans le même bateau. On est tous poignés dans le même bateau. Alors, ça donne rien de s'en faire outre mesure. Sauf qu'à compter de, c'est à compter de quand, donc, Les masques vont être obligatoires à partir de samedi. Et même pour prendre l'autobus, maintenant, c'est obligatoire le port du masque. Sinon, vous n'embarquez pas dans l'autobus. C'est pas bien, bien compliqué. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux Pointe-Éco, la radio indépendante en direct du centre-ville de Québec.
Emily lies counting sheep. Her final night between familiar sheets, she tries to sleep.
Avec les meilleurs succès radio numéro 1, les hits tournent ici. Sur Radio Fiat Lux, anglo, franco et québécois.
Are you sure? Control is not convinced, but the computer as the evidence, no need to abort. The countdown starts, watching in a trance. The crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on.
4, 3, 2, 1.
Coming home.
un ciel sans nuages, j'ai le cœur en voyage, j'ai envie de ma vie. Je ressassais des idées sombres, du côté du mur à l'ombre. Tout a changé, plus rien n'est pareil. J'ai sauté du côté du soleil.
Du quartier, son nom c'était Méo Penché. À 12 ans, fort comme un homme, il avait peur de personne. Touche pas à Méo Penché. Son père lui avait dit, tu seras barbier.
Si j'avais les
mais il n'aimait pas ce métier. Le voici donc en colère, jetant le client par terre. Ça sert à rien pour ces jobs-là, je suis trop malin. Et tout en montrant ses deux points. Tatasse, 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 t'as avec ça que va faire du foin, bobo. C'est là qu'il a commencé à s'entraîner. Il en a mangé des claques sur le nez. Le ring, c'était son affaire. Il massacrait l'adversaire. Choc, ouais, pommé au plancher. Dans deux ans, il est devenu sans trop forcer. Champion poids lourd du monde entier. Il a fait de l'argent, mais c'est moche. Il a fait des trous dans ses poches. Oh, 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 mais au plancher. je suis trop malin. Et tout en montrant ses deux points, tata, tata, t'as avec ça qu'on va faire du foin pour boire. C'est là qu'il a commencé à s'entraîner. Il en a mangé des claques sur le nez. Le ring, c'était son affaire. Il massacrait l'adversaire. Chocouet, pommé au manger. Dans deux ans, il est devenu sans trop forcer. Champion poids lourd du monde entier. Aujourd'hui, il n'y a pas de misère. Il est parti comme son père.
Toujours là, la deuxième fois, celle qui tremblait quand j'avais froid.
Ginette Renault, une belle chanson. La deuxième voix. Dans cette édition de GFP en vacances, de cette édition du 15 juillet 2020, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans l'international? On parle de la COVID-19, progrès vers un vaccin aux États-Unis. Alors, plusieurs pays qui sont reconfinés. Un panel de spécialistes, RID, là,
Fiatlox.tk. C'est ça. Un peu, j'ai envie de le voir. Dis-moi ça. Radio. Radio. Point Fiat.
Réveille pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. Comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite. Je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café. Je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison. Tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Moi, je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti.
Allô, Redouek, c'est à vous.
Comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid.
Oui, salut, ça va bien?
Oui.
Ben oui, c'est une belle toune de Claude François. Alors, on va écouter le scientifique. Tout de suite après ça, on va écouter le scientifique de Dr. Rancourt. Alors, on va écouter ce qu'a à dire le docteur Denis Rancourt. Les gouvernements riches s'en mêlent et s'entremêlent dans la toile de mensonges qu'ils ont tissés à partir des supputations de l'OMS. D'entreprises pharmaceutiques milliardaires et d'universitaires stipendiés, non sans l'appui de la petite bourgeoisie, chiens de garde du système déclinant. Heureusement, l'imposition du confinement policier meurtrier a motivé certains scientifiques à briser le silence de connivence et à prendre parole pour démasquer cette frauduleuse pandémie et les ridicules simagrées de distanciation sociale. Comme ce chercheur canadien l'affirme, Nous pensons que c'est dans l'adversité qu'il faut se regrouper et resserrer nos liens sociaux solidaires. Alors, merci à Denis Rancourt pour son courage. Et c'est signé Robert Bibeau, éditeur les7duquebec.net. Alors, on va écouter qu'est-ce que le docteur Rancourt, qui est interviewé par Robert Bibeau. Alors, on écoute ça sur les ondes de Radio Fiat Lux. On va s'informer un petit peu, à savoir, je vous l'ai fait entendre ce matin, mais peut-être que vous n'étiez pas là, je l'ai diffusé à 7h ce matin, mais on va le rediffuser. Alors, on écoute le docteur Rancourt, interviewé par Robert Bibeau. Oh, les moteurs! Alors, on écoute le docteur Bibeau.
Pour Théo Vox Actualité. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes sur le site de l'Université d'Ottawa parce que nous avons en entrevue...
Alors, je me suis trompé, c'est François Denis qui a interviewé Robert, qui a interviewé le docteur Rancourt.
Pour en savoir plus, restez des nôtres, je vous présente cette entrevue après ce qui suit. On entend plein de choses par rapport à la pandémie qui bat son plein actuellement. Tantôt des informations qui peuvent être controversées par rapport à d'autres sources d'informations. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir un chercheur, un ancien chercheur et professeur titulaire de l'Université d'Ottawa qui a pratiqué plusieurs domaines de la science, qui était financé par une agence nationale, qui a dirigé un laboratoire reconnu internationalement, qui a publié plus de 100 articles dans des revues scientifiques importantes, publié également plusieurs essais de commentaires sociaux. Aujourd'hui, il est également chercheur, toujours chercheur, à l'Association des libertés civiles de l'Ontario. Monsieur Denis Rancourt, bonjour.
Bonjour, Jean-François.
C'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir parler de cette pandémie-là. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble aujourd'hui trois axes. Pandémie, j'aimerais avoir votre position par rapport à la pandémie. Deux mots qui font partie maintenant de notre langage à travers le Canada, je dirais peut-être même à travers le monde entier, distanciation sociale et confinement. Et j'aimerais qu'en conclusion, qu'on puisse regarder tout l'aspect au niveau du masque. Quelle est votre position par rapport à cette pandémie-là?
Ben, ça va vous sembler un peu radical, là, ce que je vais vous dire, là, mais il n'y a pas eu de pandémie. Parce que la façon de regarder les données les plus robustes, les meilleures données, c'est de regarder la mortalité toute cause confondue. Quand on regarde la mortalité toute cause confondue par semaine, ça donne un graphique qui peut s'étaler sur plusieurs décennies, qui montre toujours un maximum, une espèce de bosse surélevée l'hiver. Il y a toujours une bosse l'hiver de la mortalité toute cause confondue. Après ça, il y a un creux l'été, une bosse l'hiver, un creux l'été. C'est un patron extrêmement régulier. Et la raison, l'existence de ce patron-là, c'est dû aux infections de maladies respiratoires virales. Parce que les virus se propagent l'hiver. Pourquoi est-ce qu'ils se propagent l'hiver? Parce que le mode de transmission, c'est à travers des très fines particules aérosols en suspension dans l'air. De telles particules aérosols sont stables dans l'air et font partie du fluide de l'air si l'humidité absolue est basse, l'hiver, donc l'hiver. Dès que l'humidité absolue augmente l'été, ces particules chutent et elles s'agglomèrent, il y a de l'eau qui se condense sur elles, puis elles sont évacuées par la gravitation. Et ces maladies-là ne se transmettent pas l'été pour cette raison-là. Pareillement, ces mêmes maladies-là ne se transmettent pas dans les pays équatoriaux. Il faut être à une certaine mi-latitude, là, soit dans le nord ou dans l'hémisphère sud, et c'est toujours l'hiver. Donc, c'est inversé dans l'hémisphère sud. Et donc, cette transmissivité-là, elle est super bien comprise et elle a été expliquée grâce à ce phénomène de l'humidité absolue depuis une décennie, ça fait 10 ans, depuis des études importantes, là, vraiment un breakthrough scientifique, là, 2010, Chaman et Hall ont démontré ça de façon absolument convaincante. Et donc, on connaît le mode de transmission de toutes les maladies virales respiratoires. À travers ces particules-là, on comprend donc pourquoi c'est saisonnier. Et on voit, une année après l'autre, à peu près la même mortalité, on appelle ça la charge hivernale de la mortalité, toutes causes confondues, elle est à peu près la même à tous les ans. Ça fait des décennies que c'est comme ça.
Et comment on peut justifier alors la mise en quarantaine et tout ce qui est arrivé à partir du mois de mars, puis on a vu vraiment comme une accentuation par rapport au taux de mortalité, alors qu'on était probablement en fin de saison?
Ce n'est pas justifié. C'était une pandémie de propagande, une pandémie de... C'était de l'ingénierie sociale, c'est de la propagande, c'est fabriqué de toutes pièces, dans le sens que, oui, il y a des infections virales respiratoires, comme il y a à tous les ans, à tous les hivers, et il y a toujours une panoplie de virus qui sont impliqués là-dedans, parce qu'il n'y a jamais juste un virus qui est impliqué. Il peut y avoir, même les virus pour lesquels on a beaucoup développé une immunité naturelle, ils coexistent dans la population quand même, puis il y a des individus qui peuvent être infectés par ces virus-là. Quand on analyse l'infection d'une personne, on trouve plus qu'un virus actif qui fait partie de l'infection. Alors donc, il y a toujours cette panoplie de virus-là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que, à savoir si la personne est à risque de mourir, comment est-ce qu'on détermine ça? C'est question de façon prédominante de l'état de santé, d'immunité de cette personne-là. Parce que ces virus-là sont toujours à peu près pareils.
Mais quand vous parlez d'à peu près pareil, ça m'amène une question à brûle-pourpoint comme ça. Il semble que lorsque ce virus a débuté en Chine, il semblait nettement plus virulent que ce qu'on a connu ici au Québec ou au Canada.
Non, je ne crois pas qu'il était plus virulent. Je veux dire, quand on observe un virus qui frappe un hôpital ou qui frappe une population vulnérable, immunovulnérable, quand on observe ça, c'est sûr qu'il va y avoir un peu plus d'entrée à l'hôpital localement où cette population-là est infectée. Et s'il y a une équipe de virologues et de médecins ou de médecins-chercheurs qui prennent la peine d'analyser, puis qu'ils arrivent à trouver une évidence comme quoi il y a une variété de virus qui est originale ou qui est nouvelle, il y en a toujours, ils vont dire qu'il y a une nouvelle maladie. Dès qu'on dit nouveau virus, nouvelle maladie, ça excite tout le monde, les chercheurs, tout le monde se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette maladie-là? Mais en fait, en réalité, d'un virus à l'autre, il y a toujours à peu près les mêmes satellites de symptômes pour les maladies respiratoires virales, là, je parle. Il y a toujours à peu près, en gros, les particules aérosols qui transmettent le virus, que j'expliquais tantôt, ils entrent par les poumons. Ça, c'est le mode d'entrée. Il y a l'infection, donc, au niveau des poumons, puis ça peut monter. Donc, c'est toujours à peu près les mêmes choses qui se passent, et les taux de mortalité sont toujours à peu près les mêmes, dans le sens que cette charge hivernale est toujours à peu près la même. Il faut comprendre qu'il y a des conditions de comorbidité. Il y a des personnes qui ont des conditions cardiaques, il y a toutes sortes de personnes fragiles dans les hôpitaux, et quand, en plus, ils sont infectés par un virus comme celui-là, un virus comme ça, quand ça rentre dans les poumons, ça exige une réponse immunitaire immédiate et très exigeante. Au niveau de l'énergie métabolique, là, tout le système se met en branle, et même notre système va fermer des fonctions qui sont moins essentielles, parce que ça devient une question de survie. Exactement. Alors, l'exigence métabolique est très grande quand on se fait infecter comme ça, et si on a besoin d'une énergie métabolique pour combattre d'autres conditions, il y a donc une compétition, et c'est là que les gens peuvent mourir.
Est-ce que ce sont de vrais décès COVID?
C'est très difficile d'attribuer les causes de décès dans des conditions comme celle-là. Dès qu'on a des conditions d'épidémie virale, d'une maladie comme celle-là, comme je viens d'expliquer, dès qu'il y a des causes de comorbidité, donc de vraiment attribuer la cause du décès dans des conditions où il y a toujours nécessairement plusieurs choses qui se passent, c'est presque impossible. Mm-hmm. C'est pour ça qu'en tant que chercheur, on n'essaye même pas de faire ça. Et en plus, il est reconnu, les chercheurs reconnaissent que d'essayer d'attribuer la cause de mortalité dans des conditions comme ça, c'est très biaisé. C'est biaisé par les médias, c'est biaisé par les collègues, c'est biaisé par les attentes. C'est extrêmement un processus biaisé, même si on a des tests qui eux-mêmes peuvent être très imprécis, surtout quand ils sont développés à l'épouvante, parce que soi-disant il y a une pandémie, etc. Donc, plutôt que d'essayer de faire la part des choses dans tout ça, là, c'est pour ça qu'on regarde la mortalité toutes causes confondues. Et c'est là qu'on voit, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de catastrophe. Quand on regarde l'air sous cette courbe-là de mortalité, toutes causes confondues par semaine, ça donne la charge de mortalité hivernale. Elle n'est pas différente, elle n'est pas statistiquement différente que pour les dernières 10, 20, 30 années. OK? Ouais. Là, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu comme une catastrophe dans le genre. On peut voir des mortalités augmenter en pic, des fois, par exemple, quand il y a un tremblement de terre dans une région qui écrase des gens dans les buildings, qui cause de la maladie, etc. Là, on peut voir des pics comme ça. Mais il n'y a pas eu de catastrophe de ce type-là. Mmh. Ce n'est pas un pathogène tellement nouveau et virulent qu'on peut détecter une augmentation totale dans cette charge hivernale de mortalité.
Je comprends. Vous avez fait une déclaration au choc dans un de vos ouvrages, puis je vais la citer parce que ça m'a comme interpellé. Ces caractéristiques du pic COVID, ainsi qu'un examen de l'histoire épidémiologique et des connaissances pertinentes sur les maladies respiratoires virales, amènent à postuler que le pic COVID résulte d'un homicide de masse accéléré de personnes immunovulnérables et de personnes rendues plus immunovulnérables par des actions gouvernementales et institutionnelles plutôt que d'être la signature épidémiologique d'un nouveau virus, quel que soit le degré de nouveauté du virus du point de vue de la spéciation virale.
Oui.
Selon vous, toute cette histoire de COVID est la signature probable d'un homicide de masse?
Ben écoutez, là, il faut que j'explique un peu cet énoncé-là puis le contexte de cet énoncé-là.
Absolument.
C'est parce que il y a deux choses. Premièrement, quand on prend la charge hivernale totale, elle n'a pas augmenté comparé aux décennies passées. Par contre, quand on regarde les données, quand on regarde la courbe de mortalité toutes causes confondues en fonction du temps, disons par semaine,
ouais,
là on s'aperçoit qu'il y aurait un espèce de maximum qui a une apparence normale et habituelle, suivi d'un pic très fin, très très à pic, et qui ne dure pas longtemps, qui ne représente pas énormément de morts à l'échelle d'un pays, mais qui est quand même un pic distinct, qui se voit et qui se mesure. Et donc, il faut se questionner qu'est-ce que c'est que ce pic-là? Parce qu'un pic comme ça n'a jamais été vu dans le passé. Quand on regarde les charges hivernales puis ces courbes épidémiologiques, on ne voit jamais un pic si fin, qui est si abrupt et qui a lieu si tard dans la saison hivernale. OK? Donc, ça nous met la puce à l'oreille, si on veut. On se dit, OK, qu'est-ce que c'est que ce pic-là? Et après ça, quand on le regarde, ce pic, il est fin, là, il se termine dans 3, 4, 5 semaines. Ça, il y a une montée très subite des morts, toutes causes confondues, et ensuite une chute. Et il est initié exactement en même temps dans tous les pays où il a lieu, c'est-à-dire à la date où l'OMS a déclaré la pandémie et a recommandé formellement à tous les pays de préparer leurs hôpitaux pour une entrée très grande de patients. Mm. Et donc, il y a eu des réponses gouvernementales. Pas toutes les juridictions ont fait la même chose, mais les juridictions qui ont suivi ces recommandations-là et qui l'ont pratiqué d'une certaine façon ont eu ce pic qui a eu lieu exactement au même moment, juste au début du pic, là, et qu'il est monté en flèche, là, à la date de cette déclaration-là et de cette demande-là. Bon, mais il n'y a pas un virus dans l'histoire de la biologie qui peut agir simultanément à travers des continents et se mettre à causer des morts instantanément, en même temps, partout. Donc, ce n'est pas un pic naturel.
Ce que vous voulez dire, si je comprends bien, ça veut dire que, qu'on soit en Chine, en Afrique, aux États-Unis, en Australie ou bien au Canada, il y a eu un pic simultané à travers tous ces continents-là, tous ces pays-là.
Partout où il y a eu cette montée qu'on peut voir dans les données, c'est arrivé en même temps. En Chine, c'est l'histoire est un peu plus compliquée. Là.
Je comprends.
Puis il y a aussi de la politique qui est impliquée, etc. Mais si on regarde beaucoup de juridictions en Europe, et aux États-Unis, au Canada, au Québec,
oui,
en France, en Angleterre, ce pic-là a lieu de la même façon, en même temps, de façon synchronome. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce même pic-là, anormal, qui serait dû à l'intervention des gouvernements, d'après moi, n'a pas eu lieu dans plusieurs États aux États-Unis, et des grands États. Okay? Donc, d'un état à l'autre, il peut avoir lieu, puis être très prononcé, comme à New York, par exemple. Ouais. Et dans un autre grand état, comme le Texas, la Californie, il n'y a à peu près rien. Il n'y en a pas de pic comme ça. Il n'y a, pas ce pic anormal.
Est-ce que ce serait dépendamment de l'allégeance politique, par exemple?
Ben, il y a aussi cette relation-là qu'il y a eu des pics très prononcés, dans, surtout dans des états démocrates. OK? Mais est-ce que... c'est pas parce que c'est un État démocrate qu'il va y avoir ça, mais c'est plutôt à cause des politiques gouvernementales. Ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que au Québec, et partout où il y a eu cette accélération de la mortalité, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plusieurs choses qui risquaient beaucoup d'augmenter rapidement la mortalité. On a vidé les lits de... les places de soins intensifs dans les hôpitaux.
Ouais.
On a mis ces gens-là dans d'autres institutions où ils avaient moins de soins et on a fait ça sans trop vérifier s'ils n'étaient pas déjà infectés par je ne sais pas quoi. Okay? Il n'y a pas eu un contrôle très, 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 très bon. Et donc, on les a envoyés dans d'autres institutions. Dans ces institutions-là, on a décidé de pratiquer l'isolation. On s'est dit, c'est des personnes vulnérables, donc fini les visites. On a fermé les portes. Il y a eu moins de personnel pour s'occuper de ces gens-là et il n'y avait plus de visites familiales. Hmm. Alors, les quelques personnes qui étaient infectées, il va toujours en avoir, les aérosols se répandent dans l'air et sont en suspension dans l'air longtemps. Il y a moins d'air qui est échangé avec l'extérieur parce que les portes s'ouvrent moins souvent, il y a moins de contacts. Et en plus, ces mêmes personnes-là qui sont dans un milieu où il y a cette haute densité de particules aérosols qui est porteuse de ces virus, en même temps, on les stresse énormément psychologiquement parce qu'il n'y a plus de visites, il n'y a plus de contacts, il n'y a plus de personnel pour s'occuper d'eux. Et donc, on crée exactement les conditions pour les tuer. C'est aussi simple que ça. Le stress psychologique, c'est un des plus grands facteurs qui peut affecter le système immunitaire et qui affecte et qui donne carrément plein de maladies. Et ça, les recherches scientifiques sont très claires là-dessus. Là. Ces maladies-là, ce stress-là qui se transmet dans un stress immunitaire, plus l'infection... qu'elle soit COVID ou que ça soit n'importe tous les autres virus de maladies respiratoires qui sont courantes et qui peuvent être propagés l'hiver à cause de l'air sec, va faire en sorte qu'il va y avoir eu une accélération de la mortalité.
Quand on est un chercheur émérite reconnu au Canada certainement et à l'international, vous avez fait plusieurs conférences dans votre carrière vous-même, quand on est un chercheur puis on réalise qu'on a la société ou le monde entier a été dupé par une fausse pandémie, c'est quoi le premier sentiment qui nous revient, qui monte dans l'esprit par rapport à...
Écoutez, je vais peut-être pas donner la réponse que vous attendez à recevoir. Là.
Non, je m'attends pas une réponse. Je pose des questions, c'est tout.
Non, je sais, mais je veux dire, c'est peut-être pas une réponse que la plupart des gens penseraient entendre. À chaque fois que je m'adonne à regarder la télé et que j'entends les propos des politiciens et des soi-disant experts, je suis étonné par... l'abrutissement qu'on subit. Et donc, ça ne me surprend plus. Où sont les plus grandes erreurs? Où sont les choses qui nous font le plus de tort? Est-ce que c'est le COVID? Est-ce que c'est de répandre du glyphosate sur toute la nourriture qu'on mange partout parce que les compagnies qui contrôlent les OGM les ont développés pour qu'on puisse utiliser beaucoup de glyphosate pour que ça coûte moins cher et créer une dépendance là-dessus, puis ensuite on est tous empoisonnés au glyphosate. Est-ce que ça, c'est un plus gros crime? Parce que c'est connu que ça cause plein de différentes sortes de maladies. Il y a toute une panoplie de maladies qui sont causées par ça. Est-ce que c'est un plus gros crime de traiter les cancers comme on les traite, de faire souffrir les gens de façon absolument effrayante, sans jamais qu'il y ait de tests de comparaison, sans jamais que on puisse démontrer que ce traitement est meilleur qu'aucun traitement, parce que ça, c'est maintenant considéré pas éthique de faire ces tests-là. Je veux dire, on n'a même plus le droit de poser la question. Mm-hmm. Est-ce que ça, c'est plus endommageant pour la société, etc., etc. À un moment donné, on n'est plus tellement épaté. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à le signaler, appuyer les gens qui se prononcent contre ça, les appuyer avec des informations, les appuyer avec des encouragements, et travailler dans mon association, qui est cette association des droits civils.
Bon, c'est quoi du désir de Justin Trudeau de légiférer contre tous ceux qui auraient un discours différent de l'OMS par rapport à la COVID-19?
C'est absolument épouvantable. Je veux dire, de penser qu'on est arrivé là, on perd complètement la liberté d'expression. On perd, et toujours sur des prétextes de nous protéger.
Ouais.
Toujours ce prétexte que ça peut être endommageant. Moi-même, je me suis fait, en anglais on dit deplatformed, en français c'est censuré si on veut,
ouais.
D'un site scientifique très connu qui est le ResearchGate. Mon article sur les masques, vous voulez parler des masques tantôt,
oui.
Avait été lu 400 000 fois par des chercheurs sur ResearchGate.
Wow.
Et ils l'ont, sans explication vraiment, ils l'ont enlevé. Et ils m'ont envoyé un petit message en disant, on a enlevé votre article parce qu'on estime qu'il n'est pas scientifique et que ça traite des sujets controversés. Alors j'ai écrit directement aux dirigeants de la compagnie, puis j'ai dit, écoutez, c'est une revue de la littérature scientifique dans les journaux scientifiques. Ça ne peut pas être pas scientifique, ce n'est que ça. Et en plus, est-ce que vous êtes en train de me dire que des écrits scientifiques ne peuvent pas traiter des sujets controversés? Alors là, les deux chefs d'entreprise de cette compagnie m'ont répondu et ils ont dit, non, finalement, notre vraie raison, si on veut, c'est que votre article était trop lu et on estime que ça pourrait être un danger pour la santé publique de montrer des données ou d'avancer des données qui suggèrent qu'il n'y a pas d'avantage à porter un masque. Et donc après ça, les médias, heureusement, en ont parlé de cette censure et l'article a été publié dans les médias, dans une média de masse aux États-Unis et a pu être vu de cette façon-là. Et j'ai trouvé un autre site scientifique qui était où je pouvais publier le même article, donc je l'ai mis là, etc. Mais ça montre à quel point là l'establishment tient beaucoup au masque.
Pour quelle raison, selon vous?
Est-ce que c'est justifié? Non, absolument pas. Mes études de la littérature scientifique démontrent de façon non ambiguë qu'il n'y a aucun avantage en termes de réduire le risque d'attraper une maladie virale respiratoire. OK? Aucune. Donc, il y a eu plusieurs études très sérieuses. En anglais, on appelle ça des randomized control trials avec verified outcome. Alors, ça veut dire qu'on teste vraiment si la personne a été infectée. On ne lui demande pas c'est quoi vos symptômes, quand est-ce que vous avez eu des symptômes. En utilisant des mesures de laboratoire, on établit que la personne a été infectée. Alors, si on prend que des mesures comme ça, où on élimine toute chance de biais dans la mesure, dans l'observation, il y en a eu plusieurs. Et toutes ces études-là n'arrive pas à déceler un avantage statistiquement valable de porter un masque versus pas en porter un par rapport à l'infection.
Ce serait quoi dans ce cas-là les désavantages de porter un masque? Parce que vous êtes au courant, M. Rancourt, comme moi, on a vu dès le départ, l'OMS s'affichait comme quoi que le port du masque n'était pas obligatoire, n'était même pas suggéré pour les personnes en santé. Et depuis quelques semaines, on regarde dans les informations de l'Organisation mondiale de la santé, on semble avoir enlevé complètement les messages qui disaient que le masque était néfaste pour les personnes en santé. Puis aujourd'hui, on semble avoir changé notre fusil d'épaule. Puis on encourage fortement, à travers l'OMS et à travers nos gouvernements, le port du masque. Ce serait quoi les désavantages?
Mais premièrement, il faut dire que ce changement-là est vraiment surprenant parce que ça fait une décennie que tous les organismes de la santé, à peu près dans tous les pays internationaux, disent qu'ils ne recommandent pas le port du masque dans la population générale. Et souvent, ils vont expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des dangers associés à ça. Et ils vont expliquer ces dangers-là. Il y a des recherches qui montrent le potentiel de ces dangers-là. Bon. Et là, du jour au lendemain, l'OMS change son fusil d'épaule, change complètement sa position.
Pensez-vous que c'est des moyens de pression de l'élite mondiale en haut qui subventionne à coups de millions de dollars l'OMS?
Ben, personne m'a informé là-dessus. Je ne sais pas. Mais de toute évidence, ça a été une décision politique. Ça a été une décision qui n'avait rien à faire avec la médecine.
Ou la science.
Ou la science. C'était politique et ça a des grandes répercussions. Et ça montre à quel point l'élite tient à ce que la population soit convaincue du bénéfice du masque. OK? Puis là, on peut se poser la question pourquoi. Il y a des dangers associés au masque. OK? L'OMS elle-même, tout en recommandant l'utilisation des masques dans la population générale, dit, mais par contre, il faut tenir compte du fait qu'il y a des vrais dangers qui sont potentiels, puis les énumère.
Ouais.
En autre mot, c'est comme s'il le recommandait à reculons.
Ouais.
Et, OK, donc, il n'y a aucun avantage qui a été démontré scientifiquement de la part du masque, et il y a plein de dangers potentiels.
Il n'y a aucune recherche scientifique non plus qui justifie le port du masque.
C'est ça que je veux dire. Il n'y en a aucune.
D'accord.
Aucune. Et j'ai fait la revue de ces recherches-là qui ont cherché un avantage et qui n'en ont jamais trouvé. Et j'ai fait une revue détaillée de ces recherches-là. Et on a écrit avec mon association, j'étais co-auteur sur une lettre, on a écrit au directeur général de l'OMS et on a dit, écoutez, qu'est-ce que vous faites là? Voici les données, voici les conclusions de tous les articles. Et votre position, même jusqu'à ce jour-là, c'était que vous reconnaissiez les dangers qui pouvaient être associés à ça. Puis il n'y a aucune raison d'avoir changé. Voici des exemples des articles les plus influents qui prétendent qu'il y aurait maintenant un avantage pour la part du masque. Et voici en quoi ces articles-là, c'est complètement, je vais dire en langage commun, de la foutaise. Là. Et d'ailleurs, les articles ont été... Il y a eu des demandes qu'ils soient retirés par des associations, par des groupes de chercheurs. Il y a eu des critiques très sévères des quelques articles là, qui ont dit de telles bêtises. Et donc, on a écrit à l'OMS une lettre de 9 pages très détaillée. Et aussi, on a énuméré les dommages qui peuvent avoir lieu si vous faites ça.
On n'entend jamais vraiment parler des dommages à travers les médias conventionnels non. Où on n'entendra pas parler. Ça serait quoi, par
okay,
exemple?
Donc, premièrement, l'OMS elle-même, le plus grand danger qu'ils reconnaissent et qu'ils décrivent depuis toujours dans la littérature, etc., c'est que quand on porte un masque, ça accumule les substances qui sont dans l'air, ça les arrête sur le masque, ça les accumule. Donc, des gouttelettes qui ont des pathogènes, qui ont des virus, des gouttelettes, des particules, etc., ça les accumule sur un matériau près de notre visage, près de notre bouche, notre nez, nos yeux. Ça les concentre. Et inévitablement, donc, la personne va toucher, bouger le masque et se toucher, et toucher d'autres personnes.
Ouais.
Donc, c'est un instrument qui concentre les pathogènes près du visage de la personne et que la personne va ensuite transporter avec elle pendant tout le temps du port du masque. Qu'ensuite, elle va être obligée d'enlever le masque. Qu'est-ce qu'elle va faire avec le masque? Comment est-ce qu'elle va se débarrasser du masque? Où est-ce qu'elle va le mettre en storage avant de le remettre le prochain jour ou à la prochaine sortie, je ne sais pas. Donc, ce danger-là a été considéré un danger très sérieux et très réel parce que les tests qui avaient été faits en milieu clinique où les cliniciens avaient été entraînés sur la porte du masque, où le masque doit être jeté après l'utilisation.
D'accord.
Et où il y a une certaine façon de le mettre et de l'enlever. De ne pas l'ajuster, de se laver les mains immédiatement après. Il y a tout un protocole médical sur l'utilisation du masque en milieu clinique. Et donc, et les associations ont toujours dit, ben, ça serait difficile de s'attendre à ce que la population générale suive un tel protocole. Donc, il y a des risques, ça rempire les choses plutôt qu'aider. Donc, ça, c'est un danger admis de la part du masque.
Sur YouTube, par exemple, des gens qui ont fait des tests, notamment avec le port du masque, la respiration l'oxygène, le niveau d'oxygène qui descendait et qui était, on atteignait un seuil limite, là, 89, je crois, de taux d'oxygène, on rentre en hospitalisation dans les hôpitaux, là.
C'est sûr que ça contraint la respiration. Et chose importante, c'est qu'à mesure qu'on le porte, surtout dans l'été, quand c'est humide, il y a condensation, accumulation d'humidité sur les fibres et ça bloque les pores du masque. Donc, c'est de plus en plus difficile à respirer à travers le masque, juste avec l'humidité normale qui vient de notre respire, etc. Et ça, c'est très sérieux, là. C'est plus le masque idéal qu'on a testé en laboratoire. Ça devient un linge mouillé qu'on a sur le visage, je veux dire, essentiellement, là, si on simplifie. Et c'est très difficile, c'est presque une torture d'essayer de respirer avec ça.
Exactement.
Okay? Et en plus, ça ne fonctionne absolument pas. Dès que le masque est bouché de cette façon-là par l'humidité, d'expirer, ça soulève le masque. Même s'il est bien ajusté, ça le soulève. Mm-hmm. Les masques sont même pas bien ajustés. Les particules aérosols dont je parlais, les plus fines tailles, la fraction de plus fine taille, elles vont passer là où l'air passe. OK? Donc, à côté du masque, là où il y a des pores un peu plus grandes, là où il y a des défauts sur la peau, etc., s'il est bien ajusté, si c'est un masque sophistiqué plutôt que juste un masque chirurgical ou autre, ça arrête en rien les particules aérosols qui, elles, transmettent le virus, ni à l'entrée, ni à la sortie. OK, ça c'est clair, mais revenons au danger du masque. Par exemple, si on accumule des particules dans un système, dans un environnement humide comme ça, etc., est-ce que des plus grosses particules qui sont arrêtées par le masque vont finir par se briser ou s'évaporer ou faire en sorte qu'il va y avoir des particules qui normalement on n'aurait pas respirées, que maintenant on a fait entrer sur le masque, est-ce que elles vont finir par nous infecter? Parce qu'ils sont en proximité, puis on ne connaît pas les réactions qu'il va y avoir sur le masque.
Quand on est une organisation aussi grande que l'Organisation mondiale de la santé, comment on peut, peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais comment on peut arriver à s'appuyer sur des études probablement biaisées, parce que j'imagine qu'ils se sont appuyés sur quelques études pour pouvoir changer leur fusil d'épaule?
Écoutez, quand on fait une politique draconienne qui va complètement changer la société et la vie des gens, il faut que ça soit basé sur quelque chose de solide. Il faut être certain que les études scientifiques qu'on utilise ne sont pas biaisées. Donc, on ne doit utiliser que les études les plus fiables, les études où le design expérimental de l'étude est tel à éviter que ça soit un résultat biaisé. On ne peut accepter que des études comme ça. Mm-hmm. Voyez-vous, il s'est passé quelque chose de bizarre. On s'est dit, puisqu'on a déclaré que c'est une pandémie, donc c'est une pandémie, donc il faut sauver le monde, donc on peut admettre des études scientifiques qui sont pas du haut standard habituel. Parce que ça nous prend des informations, puis il faut utiliser toutes les informations, puis toutes les informations, c'est mieux que moins d'informations, même si c'est des mauvaises informations. OK? Alors, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Quand il y a une panique, quand il y a une pandémie, quand on essaie de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, il faut utiliser les meilleures données, uniquement les meilleures données. On ne peut pas se baser sur des choses biaisées, des choses à moitié faites, des choses préliminaires pour établir des politiques draconiennes. C'est comme le monde à l'envers.
Ouais.
C'est une logique inverse. C'est comme, ils vont dire, c'est parce qu'on applique le principe de précaution. C'est complètement ridicule de dire ça. Le principe de précaution, c'est le contraire de ce qu'ils font. Ouais. Le principe de précaution, c'est que le gouvernement, avant d'appliquer une politique draconienne, doit être certain qu'il a éliminé la possibilité des dangers potentiels.
Ouais.
Si on a un manque de données, on ne peut pas appliquer la politique draconienne. C'est ça le principe de précaution.
C'est s'abstenir.
Le gouvernement ne peut pas risquer de faire du tort s'il n'y a pas vraiment une bonne information qui démontre qu'il doit faire cette politique draconienne. C'est ça le principe de précaution. Alors là on est rendu là dans un monde de fous où même les scientifiques vont dire ouais c'est vrai, mais j'en connais un, ouais c'est vrai, mon étude ne montre pas un avantage à porter le masque, mais par le principe de précaution je vais quand même le recommander dans mon article. J'ai aucune donnée qui appuie ça, mais je vais faire le commentaire que c'est quand même bon Ouh là là!
On a cette mentalité-là que si tu mets le masque, c'est pas pour toi nécessairement, mais c'est pour le bien d'autrui, pour sauver la vie des gens autour de toi.
C'est souvent, l'argument est souvent tourné à l'envers comme ça. La même chose est vraie par rapport à la liberté de parole. Hein? Les droits, les personnes vont argumenter qu'ils ont le droit de te faire taire parce que tes mots peuvent leur faire du mal. Okay? C'est comme une espèce de logique.
Distorsion.
Une distorsion. C'est une justification pour la censure, pour des actions absurdes des gouvernements. On est dans l'absurde, là. On est dans un monde d'absurde. Il n'y a aucune démonstration que si je porte un masque, ça va diminuer ton risque d'avoir l'infection. Il y a plein de mesures qui ont essayé de déceler un tel effet. Ils n'ont jamais décelé un tel effet. S'il y avait un effet significatif dans ce sens-là, ça aurait été décelé dans les nombreuses études comparatives sérieuses sans biais. Okay? Mm-hmm. Il n'y en a pas eu. Donc, l'argument ne tient pas. C'est juste, c'est de l'invention.
La peur.
Et, oui, c'est comme on peut dire, tu sais, on peut dire, t'as pas le droit de tirer de la carabine en ville près des gens des régions peuplées, même si tu te dis c'est pas mon intention de tuer quelqu'un, là, j'essaie de frapper la cible, mais si vous marchez devant, mais c'est
votre responsabilité,
risque et péril. Ouais. Ça, ok, on voit le vrai danger. Ça a été établi. On n'a pas besoin d'un scientifique expert pour nous dire qu'il y a un vrai danger. Mais jusqu'où on va aller avec ça, ouais. quand on diminue le lien entre l'action de l'individu et le danger à l'autre, et qu'on le diminue à un point où c'est même plus mesurable.
Ouais.
OK? C'est même plus mesurable par la science. La science la plus avancée, la plus sophistiquée qu'on possède, qui a essayé et qui a designé des études pour déceler cet effet-là, qui ne peut pas le déceler.
On recommande fortement le port du masque à certains endroits, et même dans certaines villes, on a tendance à vouloir le rendre obligatoire. Selon vous, est-ce qu'il se cache quelque chose derrière le masque, comme par exemple l'asservissement d'une population, le porter une population à la soumission ou au silence?
Mais à mon avis, c'est pas tellement caché, parce qu'il y a pas de raison, il y a pas de base scientifique. Et de toute évidence, ce que l'OMS a fait est une action politique. Donc, c'est pas très caché que la vraie raison n'est pas basée sur la santé publique. Ça, c'est clair. J'en suis venu à la conclusion que la raison d'insister, la raison que l'establishment veut à tout prix qu'on accepte le masque comme méthode de se protéger, c'est parce que c'est un acte concret où le citoyen admet qu'il est en danger d'un pathogène. Donc, c'est une façon d'impliquer la personne dans cette croyance stupide et fausse qu'il y a un virus qui cause une maladie respiratoire qui a une qualité différente que tous ces virus-là des décennies passées. Ça fait croire à l'individu que le gouvernement donne des bonnes recommandations pour le protéger, alors que le gouvernement garde les gens en danger et fait... Si, par exemple, on s'attardait à savoir quels sont les vrais modes de transmission, quelle est la vraie raison, la raison principale, dominante, qu'il peut y avoir des hautes mortalités dans certains endroits, dans certaines institutions. Dès qu'on se pose ces questions-là, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir avec les masques et que ça a beaucoup à voir avec une responsabilité des gouvernements et des organismes pour protéger ces gens-là et pour trouver les vraies causes de ce danger. Comme par exemple, puisqu'on comprend que c'est les particules aérosols fines qui transmettent la maladie, ben c'est pas un masque dans un institut où il y a une haute densité de ces particules-là qui va vous aider. Il y a une question importante qui est celle que ça habitue la population à accepter des directives qui sont absurdes, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de base scientifique. Ça habitue les gens à faire ce qu'on vous dit parce qu'on vous le dit, puis qu'on vous dit que nos experts et nos médecins disent que c'est la bonne chose. Ouais. Donc, il y a une accoutumance qui se crée qui est très néfaste à la société.
On croit sans se poser de questions, sans faire de recherche nous-mêmes.
Oui, et on crée cette accoutumance-là et on habitue la personne à réagir de cette façon-là. On a entendu pendant 3 semaines sur les médias qu'il y a une pandémie, on nous recommande de faire telle chose, donc on va le faire. Et parce que cette accoutumance-là, c'est très important ce point-là, et d'ailleurs on a parlé dans notre lettre à l'OMS, c'est qu'il y a une étude scientifique récente qui a été faite juste l'année passée par justement le directeur de mon association et le premier auteur de cette étude en physique, qui est une étude de la physique théorique de la société. Et cette étude-là, qui a été publiée dans un grand journal, explique que la société a une évolution progressive qui a une dégradation vers un état totalitaire dépendant des paramètres dans la société. Et les deux paramètres essentiels qu'ils ont identifiés, c'est le niveau auquel la société est autoritaire. Ça veut dire, est-ce que l'individu a une bonne chance de réussir s'il s'oppose à une règle arbitraire? Si l'individu a très peu de chances de s'opposer à une telle règle, ça veut dire que la société est très autoritaire. Ça, c'est un des paramètres. Et l'autre paramètre dans le modèle qui est très puissant, qui a été développé, c'est le niveau de violence dans la société. Et donc, dans cette application-ci, le niveau de violence, c'est à quel point est-ce que l'amende pour ne pas payer le masque est élevée. Mm-hmm. Est-ce qu'on risque d'aller en prison, etc., si on insiste vraiment. Est-ce qu'on risque de se faire physiquement pris et enlever des lieux, etc. Donc, à quel niveau est-ce que les conséquences sont violentes?
Okay?
Donc, ces deux paramètres-là déterminent si la société est une société qui peut progressivement aller vers l'état totalitaire. Il y a comme ce qu'on appelle un diagramme de phase, là, puis dépendant de la valeur de ces paramètres-là, la société peut être une société qui peut évoluer graduellement vers un état totalitaire. Et donc, le Canada et les États-Unis, quand on regarde les données et qu'on compare avec des choses mesurables, seraient des états comme ça.
Oui.
Et donc, oui. Et donc, l'accoutumance à recevoir des ordres et ne pas les contester, ça ne frustre pas cette dégradation vers de plus en plus un état totalitaire. Alors que de s'opposer, ça maintient l'équilibre et ça ramène un peu les choses vers un état plus libre et démocratique.
Est-ce que vous diriez que on s'est peut-être servi d'une fausse pandémie pour arriver à tranquillement enlever certains de nos droits et libertés?
Moi, ce que je crois, vous me demandez mon opinion, là, évidemment, je ne connais pas ces gens-là, puis je n'ai pas l'occasion de discuter avec eux, mais ce que je crois, c'est que les gens qui gèrent la structure et le design de la société, hein, l'élite globaliste mondiale, les gens les plus influents qui influencent les Nations Unies, qui mm-hmm. influencent tous les gouvernements, etc., ces gens-là, sans cesse, font des choses pour maintenir leur pouvoir et pour maintenir l'obéissance et à ce que les gens, la population, acceptent la structure de la société. Et c'est continu, ça. Il y a une grande créativité, ils ont beaucoup de chercheurs, ils ont beaucoup de meetings, et ils font ça constamment.
Est-ce que c'est justifié de rendre le monde malade, de rendre nos enfants malades dans un retour à l'école où ils sont obligatoires, c'est obligatoire pour eux de rester dans leur petit cercle puis de pas dépasser ça pour respecter le 2 mètres. Il semble y avoir des contradictions. En France, c'est 1 mètre. À l'école, c'est 1 mètre et demi parce que les enfants sont plus jeunes, moins de risque de propagation. Puis nous, ici au Québec ou j'imagine en Ontario, c'est la même chose parce qu'on tourne l'entrevue à Ottawa aujourd'hui. 2 mètres de distanciation sociale, c'est un peu farfelu. Est-ce que des études scientifiques qui justifient ça? Où on en est là-dedans?
OK. J'ai même pas envie de parler des études scientifiques parce que c'est tellement absurde. Je veux dire, on peut démontrer dans une mesure que les gouttelettes de crachat vont tomber en dedans d'1 mètre ou 2. On peut démontrer ça, mais c'est pas ça la question. La question est quel est le mode de transmission le plus probable de ces maladies? Et c'est les très fines particules aérosols, un point, c'est tout. Donc, tout le reste... Il y a des études sérieuses comparatives qui ont montré que la distanciation et même se laver les mains, ça n'a à peu près pas d'effet. Les masques aussi, ça n'a pas d'effet. OK? Mais on peut faire une mesure où on démontre qu'un virus va vivre un certain temps sur une surface. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça le mode de transmission.
Ouais.
Ça veut juste dire qu'un virus peut vivre un certain temps sur une surface. Et pour connaître le mode de transmission, il faut faire des mesures contrôlées qui démontrent ça.
Mm-hmm.
Et il faut utiliser... C'est une recherche interdisciplinaire qui doit être sérieuse. Et donc, les études les plus fiables que j'ai lues montrent sans ambiguïté les particules aérosols, c'est pour ça que c'est saisonnier, c'est pour ça qu'il y a une charge hivernale de mortalité, etc., etc. De toute évidence, ils sont allés trop loin. C'est complètement aberrant de faire vivre des enfants dans une bulle.
De plus en plus, on l'entend à la télévision, on l'entend dans les médias, on l'entend de la part de nos politiciens. C'est comme si on nous dit qu'il y a new normal.
On est déjà dans une certaine dystopie. Dystopia?
Oui, dystopie.
Ouais.
Fiction.
Fiction. Parce que on voit que la grande majorité de la population, en tout cas la classe moyenne et professionnelle, a accepté toute cette non-sens,
mm-hmm.
l'a avalée de toutes pièces, est prête à la défendre et à la propager. Alors, comment ça peut arriver ça? Comment ça peut arriver que quelque chose qui n'a aucune base scientifique, qui est complètement stupide et aberrant, inventée de toutes pièces parce que des maladies respiratoires virales, il y en a toujours à tous les hivers, partout, partout, c'est-à-dire dans cette bande de latitude là où ça existe, où la maladie est transmise. Alors, comment c'est possible de nous avoir convaincus de ce virus magique qui peut tuer instantanément, de façon accélérée, partout dans le monde en même temps, puis tout ça? Comment ils sont arrivés à nous convaincre que tout ça, ça avait de l'allure?
Je vous dirais même plus que ça. Comment on est arrivés, nous, à accepter de faire 20 minutes d'attente à l'extérieur avant de rentrer dans un magasin ou dans une épicerie ou à la SAQ? C'est aberrant.
C'est aberrant. On est devenus des zombies. On accepte des choses parce qu'on nous dit qu'il y a un danger invisible là, qui nous attend.
Vous parlez de particules depuis le début de notre conversation. Ça se maintient dans les airs. C'est la façon plus plausible d'attraper un virus par voie respiratoire, notamment. Ces particules-là restent combien de temps dans les airs?
Vous savez, on pense qu'on sait beaucoup de choses, mais on sait toujours beaucoup moins que les choses qu'on sait. On sait qu'il y a des mesures qui démontrent que ces particules-là ont moins de 2 micromètres de diamètre. Et que quand elles ont à peu près 2-2,5 micromètres de diamètre, que dans un air sans courant, elles peuvent rester en suspension, disons, quelques heures. Okay? Mais dès qu'il y a des courants, dès qu'il y a des mouvements, et aussi, les particules peuvent être beaucoup plus petites que ça, qui sont encore plus en suspension, qui sont plus... Ça ressemble, plus la particule est plus elle se comporte presque comme une molécule. C'est-à-dire, les molécules, la gravitation aura à peu près pas d'effet sur elle. Donc, vous savez, c'est très difficile de mesurer la distribution des tailles des particules et le type de particules et combien il y a de virions, de virus dans chaque particule. Ces mesures-là sont pas évidentes. Il y a des mesures très poussées qui peuvent être faites, mais il y a toujours des techniques expérimentales. Il faut recueillir un échantillon. Il faut ensuite faire... on peut pas aller identifier chaque particule, donc on fait une mesure globale sur une analyse génétique du matériau qu'on a collecté, puis on conclut qu'il devait en avoir tant de virus par volume d'air. Tu sais, c'est toujours compliqué. Donc, mais si on voulait... on pourrait faire des études qui peuvent répondre en grand détail à ces questions-là. Ouais. On pourrait découvrir, mais c'est pas ça qui est... On ne met pas l'emphase sur ces choses-là.
Moi, je vous posais la question plutôt par rapport à la distanciation sociale. Si la particule demeure constante dans l'air, de là encore plus l'aberrance de faire une distanciation sociale, parce que même si je suis à 2 mètres, si je m'avance puis la particule elle est là, je peux quand même...
Il y a par exemple un cas célèbre qui est décrit dans la littérature scientifique où les gens ont été assis sur le tarmac dans un avion pendant je sais pas combien d'heures là, et puis il y avait une personne qu'on savait avait la grippe là, puis à la fin presque tout le monde avait la grippe. C'est-à-dire tout le monde a éventuellement eu la grippe à cause de cette expérience d'être resté dans l'avion avec une personne ou peut-être quelques personnes qui avaient la grippe et donc qui émettaient des particules très fines puis qui se répandaient partout. Puis vous savez, c'est en physique, on parle de mouvement brownien, on parle de ces particules qui ne sont pas affectées tellement par la gravité. Et on va finir par en respirer une ou deux.
Est-ce que c'est ces particules-là qui ont justifié, si ça m'amène à vous parler du confinement, de confiner les gens? Est-ce qu'on a confiné les bonnes personnes ou on a confiné les mauvaises personnes?
Confiner, c'est-à-dire empêcher les gens de sortir de la population. Non, c'est absurde, c'est ridicule. Il n'y a aucune justification pour ça. Et de toute façon, c'est une grippe. OK? c'est la première chose qu'il faut nous venir, qu'on doit venir à comprendre quand on regarde mortalité, toute cause. Il n'y en a pas eu plus. La charge hivernale n'est pas plus grande que d'habitude. Ouais. C'est une grippe. Et une grippe, ça veut dire une multitude de différents virus qui peuvent donner des maladies respiratoires, qui coévoluent avec des animaux qui respirent depuis 300 millions d'années, qui coévoluent avec nos ancêtres depuis 5 millions d'années, qui ont toujours été là, qui notre système immunitaire s'est toujours coadapté à ces différentes mutations, etc. Il n'y a pas d'exemple historique où un tel virus de maladie respiratoire a été virulent de lui-même, où on peut prouver là que c'est à cause de la structure génétique particulière de ce virus-là que tout d'un coup, il est beaucoup plus virulent qu'une autre variété de cette catégorie de maladie-là. Non, c'est une question de l'immunovulnérabilité de la population qui est atteinte. Donc, historiquement, on peut voir que c'était des populations très, très stressées au niveau immunitaire et au niveau de la santé qui ont pu être attaquées avec des hauts taux de mortalité. Mais depuis 30, 40 ans, ça n'existe pas dans nos sociétés, là, je veux dire.
Pensez-vous que si on n'avait pas confiné les gens, on aurait déjà fini d'en parler?
On n'aura jamais fini d'en parler tant que les médias décident d'en parler. Je veux dire, ils vont en parler là tant qu'ils peuvent. Et pour qu'ils arrêtent d'en parler, il faudrait qu'il y ait un mouvement culturel dans la société où ils sont ridiculisés d'en parler.
Ouais.
Aussitôt qu'on arrive à ce point tournant où on commence à les ridiculiser dans leurs propos et que ça marche, et ça, souvent, ça se fait par YouTube et par les médias sociaux, là, ils commencent à changer leur fusil d'épaule. Mais il reste qu'il y a une grande fraction de la population qui ne voit que la télévision du câble ou que certaines émissions. Et ces gens-là, on ne peut presque pas les atteindre. Là. Ils restent là-dedans, puis on les pompe.
Merci, M. Rancourt, de nous avoir donné cette opportunité-là d'avoir cette entrevue avec vous aujourd'hui pour discuter sur ces sujets extrêmement importants, sujets de l'heure aujourd'hui. Donc, je voulais vraiment vous remercier. C'était un honneur pour l'équipe de Théovox d'être avec vous aujourd'hui.
Ça m'a fait plaisir.
Merci beaucoup à la maison de nous avoir suivis, d'avoir été à l'écoute, et puis je vous dis à bientôt.
Sur radio.fiatlock.tk.
Ça peut, j'ai envie de voir. Dis-moi ça,
Very early in the morning, the results of a crime were found in the stables of Le Père Choupon. The old man had discovered, to his absolute dismay, the dislocated body of Elizabeth Dumoutier. So, the police was called in. I was handed the inquiry. Upon arriving on the scene, some photographs were shot. A couple of small-time journalists were rising their fist among the crowd, shouting,
"Je ne suis pas le coupable! Celui qui a fait le coup, je me dis, moi!"
Viens voir là, toi. Comment c'est que vous savez ça, là, vous deux?
Normal! Tout le monde les a vu qui n'étaient pas ensemble hier soir!
Walking, walking on a tightrope of insanity. Walking, walking on the verge of losing mind.
The man was stoned on a nearby road, wandering without a goal, in a complete state of amnesia, and his hair filled with straw. Though the whole thing seemed unreal, well, it soon became quite clear that Austin, the author of this crime, needed swift assistance.
Allez, allez, là, monsieur le commissaire, maintenant, il va se faire le coup du type qui se rappelle de rien, là.
Toi, je t'interdis de publier des salades dans ton canard de merde jusqu'à ce que le procès soit terminé.
Oh,
led experts to conclude Austin had been the victim of a strange case of split personality. The trial neared its end, and though the facts had been exposed, the crowd still wanted blood, for they were in for a big surprise.